Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chaque mois, on s'impose un livre à tour de rôle. C'est le premier épisode du Book Club. C'est moi qui ai choisi le livre. On va en parler. Je pense que je vais en entendre parler du fait que c'est mon choix que j'ai imposé.
Ouais.
Et on se réunit le dernier mercredi de chaque mois en live pour en parler avec vous. Et l'idée, c'est que, bien sûr, vous ayez le temps de le lire de votre côté pour pouvoir participer, poser vos questions, donner votre avis et tout. On est ravis. Et on va vous faire une première partie sans spoiler. Où, du coup, on va pas vous révéler comment ça finit le problème à trois corps. On va vous parler un peu de l'intrigue qu'on va essayer de résumer. Ça va être fun. Et de notre avis général sur l'œuvre. Et ensuite, on partira à la partie full spoiler où du coup, eh bien, il vaut mieux avoir lu le livre pour rester avec nous.
Mais c'est là que vous... j'aimerais dire quelque chose, si je peux me permettre.
Ça a l'air
si
dramatique, j'aime bien.
Un conseil à vous donner, c'est d'acheter le livre quand on vous dit de l'acheter, c'est-à-dire quand on fait la première story, et de ne pas lire le livre 3 jours avant le book club. Je dis ça vraiment, sans être moi-même concernée par cette problématique, évidemment.
Non, mais la mif, on est mercredi. Samedi, Kalindi, elle m'envoie une photo du livre, elle me dit « je vais enfin pouvoir le commencer ». Dans ma tête, j'ai fait « oh putain ». Je crois que je t'ai répondu « ah ah, courage », mais en mode « ah, c'est fun ». Et en même temps, j'étais là « prévoir de peut-être décaler le live ». Parce que je me dit « je sais pas si tu vas y arriver ». Enfin, je ne voulais pas douter de toi.
Non, mais je vois que tu doutes de mon intelligence.
Mais c'est quand même un bon morceau, quoi.
Est-ce que je peux être honnête à ce niveau-là du récit et
tu peux.
En fait, donc moi j'ai eu pas mal de travail le mois dernier. C'est pas pour me trouver des excuses, c'est vraiment j'ai genre pas eu le temps de le lire.
Oui.
Et je me suis dit, je vais aller en Espagne pendant 2 semaines, j'aurais que ça à foutre. Mon ami Alex Martineau, qui fait partie de 4 quarts d'heure, vient. Je racontais à Mimi, on a été très occupés, on a acheté des chapeaux de cow-boy, on a fumé des chichas, on a fait des trucs vraiment bêtes.
Oui, et il me semble que. Si j'ai bien retenu l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure, c'est pas tant mon ami Alix Martineau vient, c'est que moi, Kalindi ivre, j'invite mon ami Alix Martineau à me rejoindre en Espagne pendant mon temps de repos
et de
hard science fiction.
Et du coup, j'ai plus fumé des chichas en buvant de la sangria et à assister à des roulages de pelles de différentes personnes dans des nightclubs que j'ai lu Le problème à trois corps, je vais pas mentir.
Et c'est peut-être plus fun.
Et c'était sans doute
peut-être.
Plus fun, mais je n'ai pas cessé de repousser, parce que moi, donc il est peut-être temps de le dire, je n'aime pas la science-fiction. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, je connais mal. Donc du coup...
C'est pas ton univers. Hein.
C'est pas mon univers de base. Moi, je suis très drames intimes, naturalistes, ou alors grandes épopées à travers un pays et tout.
Est-ce que t'as quand même une ou deux références de la SF qui t'ont parlé ? Parce que peut-être elles font un truc différemment, ou est-ce que vraiment c'est pas...
Bah alors vraiment, c'est ce que je disais l'autre jour dans ma story, j'ai lu le premier tome et demi de La Tour Sombre.
Ouais, qui est vraiment pas l'exemple science-fiction le plus clair, La Tour Sombre de Stephen King, dont on parlait avec Emily de Stephen King France sur un autre live que vous pouvez retrouver. Surtout les deux premiers, c'est du western plus qu'autre chose.
Mais oui, mais c'est ça que j'ai un peu aimé, c'est ça qui m'a fait tenir le premier.
Okay.
Même si j'ai pas tout compris, comment il s'appelle,
Roland.
Non, Roland, oui, mais c'est quoi son apparat.
Pistolero,
voilà.
Son apparat. C'est fanfreluche, là, son code URSAF, c'est quoi?
Et qui cherche la main noire, là, et tout. Bon, là, j'ai compris, puis après, j'ai abandonné, c'était trop compliqué, puis j'ai vu le film, j'étais démoralisée absolument.
Comme tout le monde, ça, c'est normal.
Voilà, après, j'ai vu des séries, j'ai vu The Expanse il y a des années,
okay.
J'ai vu une partie de Doctor Who, parce que j'ai été pendant des années avec un fan de science-fiction. Ah non! Mais qu'est-ce que j'ai aimé? Adoré, que dis-je? Ah ben voilà, j'ai encore pas le nom. Je n'arrive pas à retrouver les trucs en ce moment. Ils sont dans des vaisseaux,
ouais.
Beaucoup de SF.
Star Trek.
Non.
Firefly.
Non.
Ok. Battlestar Galactica. Bien sûr, Battlestar Galactica.
Oh là 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 là. Mais alors,
je suis énervée d'avoir dit Firefly avant.
Non, mais j'ai adoré Battlestar Galactica et les films et tout, c'était formidable.
Yes.
Donc j'ai quand même quelques refs. Et surtout, je me suis rendu compte à deux.
Non, mais si voilà, c'est quand même une bonne grosse ref de science-fiction. T'as vu The Expanse qui est aussi.
J'ai pas aimé.
Voilà, moi non plus, je suis pas rentrée dedans. T'as vu un peu de Doctor Who qui est plutôt du space opéra et de la science-fiction beaucoup moins qui se prend moins au sérieux que The Expanse ou Le Problème à trois corps. Donc t'as quand même tâtonné un peu dans le domaine, mais ça t'a jamais
non, mais je voudrais dire quelque chose, c'est qu'en fait c'est mes a priori qui pétrissent mon mépris pour ce genre, parce que en réalité à chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, bah ça m'intéresse. C'est juste que de prime abord, ça me semblait tellement froid comme milieu. Tu vois, là, j'ai acheté Le Problème à trois corps. J'ai vu, tu vois...
Bah, la couverture, elle est noire et gris et bleue.
La couve, elle est bleue. Elle est comment on dit, métallique. Tu vois, j'étais là, ouais, c'est froid.
On dirait un peu un ordinateur.
Ouais, puis moi, l'ordinateur, c'est vraiment... L'ordinateur et moi, on n'est pas super copains, quoi.
Ouais.
Donc, je dois dire que je suis pas partie là-dedans avec énormément de facilité. J'ai pas arrêté de reculer l'échéance. Et samedi, je devais rentrer d'Espagne, donc j'avais 6h30 de train.
Yes.
Et c'est là que vraiment j'ai pu pénétrer cette histoire.
Et ben heureusement que tu l'as pénétré, sinon ça aurait été un très long voyage en train finalement. Bon, globalement. Le problème à trois corps, on va essayer de vous résumer.
Putain,
de quoi
chouette.
Ça parle, okay. pour être transparente avec vous. Le plan, c'était, je demande à Kalindi d'improviser un résumé, et moi, j'en ai écrit un, en backup. Je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps, bref. Je faisais des roulés à la saucisse au fenouil. Du coup, on va essayer ensemble d'improviser un résumé du problème à trois corps, rappelons-le, qui ne spoil pas la fin de l'intrigue, et ensuite, vous donner notre avis. Et si jamais vraiment c'est trop, vous ne comprenez rien, on ira sur Wikipédia.
Non, mais c'est surtout si on n'arrive pas à le faire, en fait.
Voilà, peut-être on n'arrivera pas à le faire. Kalindi,
c'est à moi l'honneur. Alors, je pense que pour faire le plus clair, on peut commencer par sauter le début et dire que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Wang Miao. Et il est
tout
peut-être temps
fait.
De dire qu'on va potentiellement... On a fait des recherches, Mimi en tout cas les a faites, sur la prononciation exacte des prénoms chinois, puisque c'est l'adaptation, la traduction d'un roman chinois. Il est possible qu'on ne dise pas tout de manière ultra correcte et on s'en excuse. Donc, je vais commencer comme ça. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Wang Miao qui, je crois, en 2006 ou 2007... 2007. Est contacté par des autorités qui lui disent « Écoute, gars, ce serait pas mal que t'infiltres une société qui s'appelle la Société des Frontières de la Science, car la science se trouve actuellement être menacée. Et donc, nous aurions besoin de savoir si cette société un petit peu secrète, ou en tout cas pas super légale d'après ce que j'ai compris, ou je sais pas trop, en tout cas, bon, une société qui s'appelle voilà, surveillée de près, on voudrait savoir si... ils ne trempent pas dans les trucs louches. Et donc, du coup, est-ce que tu peux les infiltrer ?
Sachant
donc,
que lui-même, il bosse sur les nanomatériaux.
Voilà, c'est
donc, il est aussi dans le domaine scientifique, mais pas physique quantique. Enfin, il est dans du concret, quoi.
Voilà.
De l'ingénierie.
Et il s'avère que donc, il va... au début, il refuse un petit peu. Il est là, non, j'ai autre chose à foutre. Et puis, finalement, il le fait un petit peu par orgueil, puisqu'il est défié par un flic qui s'appelle Shi Qiang.
Tout à fait, un commissaire.
Voilà, et du coup, il se sent un peu défié. Il dit finalement, je vais.
Alors,
intégrer...
apparemment, c'est Qiang, plutôt la prononciation de Qiang.
Shi Qiang.
Ouais,
okay.
À peu près.
Ok. Et donc, il va essayer de pénétrer cette société et surtout, il va découvrir que certains des membres de cette société jouent à un jeu qui s'appelle les trois corps et donc qui fonctionne avec un truc qui s'appelle la V-combinaison et donc une espèce de combinaison et de casque réalité augmentée qui
en
lui
mode
permet...
Ready Player One, réalité
c'est
virtuelle
ça. Et donc qui lui permet de pénétrer un monde qui s'appelle Trisolaris et là il va découvrir que potentiellement dans ce jeu se trouve la clé à ce qui menace potentiellement la communauté scientifique chinoise et même
tout à fait.
Mondiale.
Tout à fait.
En parallèle, au début du livre, on apprend à connaître une jeune femme qui s'appelle Ye Wenjie.
Voilà.
C'est bien dit ?
Oui.
Qui, elle, a vu son père...
Je dis ça, qu'est-ce que j'en sais ? Ça ressemble à peu près à ce que j'ai entendu.
Qui, elle, a vu son père être assassiné devant ses yeux pendant la révolution culturelle chinoise. Et donc, forte du... Alors, donc, son père
fort
était
du
un...
trauma.
Forte du trauma. Son père était donc un intellectuel et un grand scientifique dont on disait qu'il menaçait la pensée... aide-moi.
Révolutionnaire voilà. Chinoise. En gros, il y a eu une épuration de plein de corps intellectuels et scientifiques sous prétexte que c'est anti-révolutionnaire, c'est bourgeois. Et du coup... L'idée était de, on ne peut pas s'appuyer sur la moindre découverte scientifique faite par des gens qui ne sont pas dans le grand système communiste. Donc, par exemple, même Einstein et tout, c'est, on ne peut pas se baser sur les travaux d'Einstein parce que ce n'est pas un camarade.
Voilà.
Donc, grosse épuration sous prétexte de, non, c'est pas la bonne science.
Et donc, cette jeune femme voit son père se faire assassiner. Et puis, plus tard, elle se retrouve... Elle lit un livre qui est prohibé par la société communiste en vigueur. Et donc, elle se retrouve transportée à un endroit qui s'appelle Côte Rouge. Et à cet endroit, eh bien, elle va commencer à faire des recherches en partie sur les télés transmissions vers le soleil.
Parabole. Grosse parabole à Côte Rouge
qui envoie des signaux dans l'espace. Et donc elle commence à faire des petites recherches de son côté. Et puis, l'histoire avec notre ami
Wang
Miao, ça va se recouper un peu. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que, et qui est quand même central à l'histoire, c'est que Wang Miao, pourquoi on l'a dépêché sur cette affaire aussi? C'est parce que plus de 30 scientifiques se sont suicidés.
Et oui, c'est ça le mystère du début du problème à trois corps, c'est de nombreuses personnes, de nombreux scientifiques à travers le monde se suicident, et dont une femme que connaissait Wang Miao, qui est aussi pour ça, il a un lien personnel avec l'une des victimes, c'est pour ça que les autorités, et notamment le commissaire Shi Chang, font appel à lui pour infiltrer ce milieu-là. Et effectivement, tout est lié, bien sûr, l'histoire de Wang Miao en 2007, l'histoire de Ye Wenjie qui commence à la fin des années 60 pour comprendre qu'est-ce qui menace la science et qu'est-ce qui fait que les
gens se suicident. Voilà. Après avoir appris, et c'est dit quasiment au début du roman, qu'ils avaient découvert que la physique, eh bien, n'existait pas.
La physique n'existe pas.
En réalité.
Waouh ! C'est très grave.
Et pour eux, c'est très grave. Pour moi, bon...
Je dirais pas que ça te perturberait autant, quoi.
Ça m'aurait pas empêché de dormir hyper longtemps, mais non. Pour eux, c'est vraiment qu'ils ont basé toute leur life sur les non, sciences, la physique quantique.
C'est surtout pour eux qui comprennent le monde qui nous entoure. Nous, vraiment, on serait là, d'accord. Eux, ils savent que si les lois de la physique telles qu'on les connaît ne fonctionnent plus, puisque c'est ce qui semble apparaître au travers de plein d'expériences à travers le monde, eh bien, visiblement, c'est grave.
Voilà, c'est ça.
Pour des raisons que le livre expliquera plus ou moins.
Et donc, le livre fait des allers-retours entre la jeunesse, je vais encore dire des conneries, donc je préfère pas, de Ye Wenjie, la vie présente de Wang Miao, et puis aussi les phases de jeu à l'intérieur des trois corps. Oui. On suit plusieurs personnages, certains même qu'on découvre quasiment à la fin, je pense au Evans, oui. Qu'on découvre vraiment page 390, et je suis là, yes, un nouveau personnage.
Parlera du rythme, hein, finalement, oui.
Et évidemment, il va être question à un moment donné, peut-être peut-on en parler d'ores et déjà, d'extraterrestres, de populations voulant potentiellement...
Attends, là c'est trop. Il y a des histoires de contact avec de potentiels contacts, en tout cas avec des civilisations extraterrestres. Ça fait partie des grandes thématiques du livre, c'est qu'est-ce qu'on... Et c'est une idée discutée par beaucoup de scientifiques, c'est qu'est-ce qu'on risque en tant qu'espèce, l'humanité, à envoyer des messages dans l'espace, comme on le fait. Est-ce qu'il y a... Sur qui ça peut tomber en termes de civilisation, et qu'est-ce que ça peut nous attirer comme ennui? Et si on compare l'arrivée d'une civilisation extraterrestre avec la technologie que ça comporte, comme par exemple l'arrivée des colons espagnols et européens sur le continent américain, on sait comment ça finit pour les gens qui habitaient là à la base.
Oui.
Donc voilà, c'est une des thématiques qu'il y a dans le problème à trois corps. Et voilà, le hook de base, c'est essayons de comprendre ce qui arrive à ces scientifiques qui se suicident, mais on va pas non plus dire que c'est une méga enquête thriller et tout. Il y a beaucoup de, comme tu dis, d'histoires croisées, de périodes croisées, etc. Mais ça reste une des thématiques principales du livre.
Mais on s'en est pas trop mal sorti.
Faudrait que quelqu'un qui a pas lu le livre nous dise. Non, je trouve que ça va. Au final, ça reste les deux histoires principales qui se s'entrecroisent et finissent par se lier. Et cette troisième histoire qui est ce qui se passe dans le jeu vidéo Trisolaris. Ok.
Ouais, résumé pas mal, c'est propre. Merci de nouvelle idée.
Merci.
Le résumé a l'air de tenir la route. Merci
J'ai
beaucoup.
J'ai à peu près compris. On peut toujours aller plus loin dans les détails. On ira dans la partie spoiler. Là, on est dans la partie no spoiler. Alors, Kalindi, globalement, alors t'as dit t'as pas aimé. Et finalement, t'as aimé. C'est quoi ton avis global sur Le problème à trois corps? Tome 1, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est une trilogie. Il y a un 2, il y a un 3. On parlera plus tard de est-ce que ça nous a donné envie de lire la suite. Mais déjà, ce tome 1, qu'est-ce qu'on en dit?
Eh bien, écoute, tu vois, quand je te disais oui, ça a l'air horrible, machin, et tu m'as dit, moi, j'ai mis du temps à rentrer dedans, et puis en vrai, après, ça a coulé tout seul. Je suis assez d'accord, sauf qu'en fait, je trouve le début très prenant. En fait, okay. Toute la partie sur la révolution culturelle, la violence des diverses factions entre elles et tout, j'ai trouvé ça assez passionnant parce que faut le dire, je pense qu'en Occident, on est assez peu renseigné en réalité sur la révolution culturelle chinoise. C'est pas un truc qu'on étudie de fou à l'école. Je sais pas si on l'aborde.
Non, et puis enfin très peu. Et puis il y a des notes du. Moi, je l'ai lu en français évidemment.
Oui,
et
il y a des notes
aussi
de...
qui remettent du contexte par l'auteur lui-même pour justement aider un public occidental à comprendre. Voilà, quand il fait référence à tel livre, bah en fait, ça voulait. C'était un truc utilisé par les révolutionnaires ou par les contre-révolutionnaires, blabla. Donc on apprend des choses.
On apprend beaucoup de trucs. Et puis finalement, j'ai été prise par l'histoire. Alors, je vais pas mentir. Il y a eu des moments où c'était moins simple qu'à d'autres. Mm-hmm. Mais notamment toutes les phases. Alors, j'en ai parlé à notre amie Camille, dite Marie Chanchon, avec qui j'ai dîné hier soir. On parlait un petit peu du livre. Et je lui disais, bah, moi, un truc que j'ai adoré, c'est toutes les phases du jeu qui se passent dans le. Toutes les phases du livre qui se passent dans le jeu vidéo.
Yes.
J'ai adoré ça, alors que j'aime pas les jeux vidéo.
Oui, quand même, disons-le, t'es pas spécialement une gameuse, quoi.
Non, pas spécialement. Je rappelle, j'ai joué une fois à WoW, j'ai pas trouvé un parchemin, j'ai acheté une armure, j'ai dépensé tout mon argent, j'ai arrêté.
Voilà, pour être bien sapé.
Pour être bien sapé. C'est important, même dans WoW. Et en fait, j'ai beaucoup aimé toutes les phases dans le jeu, jusqu'à un moment donné où c'est devenu trop compliqué pour moi, mais bon, j'y reviendrai. Et en fait, je trouve que c'est un livre dont, si on arrive à mettre de côté tous les termes ultra-scientifiques, parce qu'il y a des moments où on te dit, bon, j'ai passé ma vie à chercher des trucs sur Internet, hein, le fond diffus cosmologique, en vrai, je l'ai vu une première fois, j'étais là, Kezako. Tout à l'heure, j'en parle à Alix, elle me dit Kezako, je lui dis... Laisse-moi rechecker sur
oui,
Wikipédia.
Je l'avais et je l'ai perdu. Mais oui, 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 c'est un truc, c'est un vrai truc, hein, c'est important.
C'est un vrai truc. Et bah, ça, d'ailleurs, on pourra en parler plus en détail, parce qu'en fait, le livre est tellement dense. Et donc, si on laisse de côté un petit peu tous les termes très hard de physique quantique, même de mathématiques, etc., et ben, je trouve qu'on peut quand même comprendre la trame principale de l'histoire. Et je trouve que même si bah, c'est de la hard SF, clairement, tous les termes scientifiques ne viennent pas non plus trop parasiter l'intrigue de base. Et je pense que même des gens comme moi qui n'y connaissent rien et qui sont nullissimes en termes de physique, mathématiques, etc., peuvent comprendre ce livre. Et c'est encore ce qu'on demande, la clarté du récit quand on lit un roman, quoi. Non.
Oui, et puisque c'est un best-seller, hein, il faut le dire, voilà, adaptation qui arrive sur Netflix, mais énormément de ventes et de reconnaissance mondiale avant ça. Sachant que la science-fiction chinoise, en général, a pas mal le vent en poupe depuis bien plusieurs décennies. Mais celui-là est un... Voilà, sort encore plus du lot. Et la question qui est le plus revenue sur Instagram, où j'ai demandé est-ce qu'il y avait des questions pour le book club, c'est est-ce qu'on peut le lire même si on n'est pas matheuse, on n'est pas scientifique. Toi et moi, on est deux bacs littéraires. Je pense qu'on n'a pas la bosse des maths plus que ça.
Non, mais toi, t'as un esprit quand même un peu...
Je sais pas, honnêtement, bah, je sais qu'il y a un moment où toute l'abstraction de la physique, tu vois, c'est compliqué. Et ma grande sœur est physicienne, donc j'ai vraiment des gens avec qui en parler, qui en plus elle vulgarisait et tout. Et autant j'aime bien, ouais, les trucs dans l'espace, tout ce qui est voyages spatiaux, même Interstellar, tu vois, je suis là.
J'adore.
Kind of get it. Le trou noir, la bibliothèque, ok. Mais là, à lire aussi, c'est compliqué à lire, tu vois, j'étais perdue. Sur pas mal de termes ou pas mal d'enjeux où tu vois, ils étaient là en mode les ondes sinusoïdales ne sont plus parallèles. J'étais en mode. En fait, je vais pas googler, je vais juste laisser le livre me dire est-ce que c'est positif ou négatif.
C'est ça.
Et du coup, probablement, quand t'es très matheux ou très physique, c'est encore mieux de lire ça parce que tu comprends vraiment tous les enjeux. Mais je dirais pas que ça nous a handicapés dans notre lecture de pas avoir fait de science depuis le bac.
Après, ça peut être un peu repoussoir si on n'a pas un objectif qui est de vraiment lire ce livre pour un book club. Par exemple,
voilà.
Si vraiment...
Est-ce que si jamais il n'y avait pas eu le book club, en vrai, est-ce que tu... Disons, voilà, tu l'achètes, tu te dis...
Mais je l'aurais jamais acheté,
Non, mais essaye de te projeter. Genre, bah, alors, ton mec te dit c'est super.
Alors, surtout si mon mec me dit c'est super, je vais pas le lire.
Quelqu'un que tu aimes vraiment te dit c'est super.
Non, c'est pas vrai en plus, parce qu'avec mon mec, on se partage beaucoup de livres et tout. Et du coup, non, je l'aurais lu. Je sais pas si je serais allée aussi loin que ce que je suis allée finalement.
Ouais, t'aurais peut-être succombé au moment où.
Ouais, je me serais dit vas-y, je lis un truc que je sais lire et dont je maîtrise les codes. Et en fait, vraiment. Alors, peut-être c'est ridicule ce que je vais dire, mais je me sens tellement plus intelligente depuis que j'ai réussi à lire ça.
Laisse tomber, on a gagné des points de QI, des puntos.
Non, mais je me suis dit, c'est chambé de découvrir un truc dont j'ai jamais eu vraiment vent, tu vois.
Bah, c'est des pans de ton cerveau que tu n'actives plus très souvent, les pans qui essayent de comprendre comment ça marche les mathématiques, comment ça marche la physique, et c'est toujours... passionnant, tu vois, et on n'est pas plus bête que d'autres, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais je suis d'accord avec toi que par rapport à une aventure épique ou à un super thriller ou à une histoire d'amour de fou, bah ça. Ouais, on se sent différemment intelligente une fois qu'on l'a fini.
Ah ouais,
mais
c'est clair.
Le fond diffus cosmologique, je peux pas l'expliquer, mais genre, je le comprends.
I get it. Ouais. Anyway.
Genre, la physique n'existe pas, I get it. C'est très grave. bof. Mais on comprend pourquoi des gens dont c'est le métier disent que ça a l'air grave.
Ça, oui, on comprend pourquoi c'est un désastre. Bon.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement aimées, alors sans rentrer dans les détails encore une fois, hein, mais ou moins aimées, des aspects qui pour toi laissent vraiment à désirer?
Non, alors donc pour
ou qui sont vraiment cool.
Pour moi, j'ai vraiment trouvé que les parties. Alors déjà, j'ai ri à certains moments d'explication du jeu.
Ah,
je rigolais, genre, en fait, au tout début de quand il arrive dans le jeu et que t'as les deux gars qui lui disent que c'est une ère chaotique et il comprend pas. Et donc, il dit, mais du coup, quand est-ce que se lève le soleil et les autres sont là? Non, mais en fait, c'est l'ère chaotique, donc, et vraiment.
Ah, le paysan, il sait pas,
mais
quoi.
Mais ouais. Et genre, tu sais, je les lisais avec des voix un peu sassies dans ma tête et ça m'a fait gaulerie à certains passages.
Alors, je veux voir la pièce de théâtre, le problème à trois corps où c'est juste les scènes dans le jeu et c'est toi qui adaptes.
Non, mais donc voilà, en fait, j'ai trouvé que ce livre avait une puissance, parce que j'imagine que, moi, je suis pas matheuse, on vient de le dire, je suis pas physicienne, loin de là. Du coup, je ne saurais pas dire ce qui relève d'éléments véridiques et ce qui relève de la fiction.
Dans la science-fiction, quoi.
Exactement. Et du coup, je pense, notamment le jeu, relève d'une telle créativité, d'une telle inventivité, ce truc des gars. Donc, en gros, quand Wang Miao est dans le jeu, il découvre que parfois, quand il y a plusieurs soleils, et parfois, genre, ça fait embraser la planète, parfois, il fait super froid, et donc, quand ça s'embrase, notamment, il faut déshydrater les corps des gens pour les foutre dans des silos de déshydratation et les protéger. Sinon,
quand genre vous prenez vos vêtements d'hiver et vous les mettez sous vide dans un grand sac sous vide en attendant l'hiver d'après, ils font ça avec la population.
C'est trop
parce
drôle.
Que s'ils arrivent pas, il y a pas de cohérence, il y a pas de rythme à s'élever, à s'coucher, de soleil multiple et d'apparition et tout, donc il faut bien trouver un moyen de stocker les gens quand il y a vraiment trop de soleil, quoi.
Et c'est génial comme idée, genre les gars se déshydratent et après Wang Miao à un moment donné il fait un rouleau d'un type, il le met autour de son bras, genre, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit waouh.
Il est un peu deg mais pas trop, il est un peu gêné mais pas trop.
Ouais, il est là. Chelou mais à la fois.
Comme des champignons shiitake. Après tu les remets dans de l'eau tiède 30 minutes et ça redevient des gars qui peuvent recommencer à travailler, à faire leur vie.
Mais je crois que c'est l'exacte analogie. Alors le terme peut-être. Shiitake n'est pas donné, mais c'est comme des champignons déshydratés. Je m'étais dit ouais c'est vraiment ça. Et tu vois, j'ai trouvé ça d'une inventivité folle. Et il y a plein de passages où j'étais là, waouh, tellement d'idées par minute. Et à la fois, évidemment, ce qui fait la qualité de ce livre, c'est aussi son écueil. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et que parfois, on s'y perd un petit peu. Et notamment, moi, ce qui m'a complètement perdu, mais c'est là, on arrive aux limites de ce que ma conscience peut considérer, notamment, là, on va rentrer dans les spoilers, donc peut-être plus tard.
On attend. Ok.
Alors donc non, pour ce que j'ai moins aimé, pour répondre à ta question, en fait je me suis interrogée et au début je croyais que le style assez placide et très économe de l'auteur, notamment en termes de personnages et de caractérisation des personnages, je pensais que c'était quelque chose qui me dérangeait parce qu'en fait on sait très peu à quoi ils ressemblent, quelle est leur intériorité, à quoi ils pensent, comment ils se situent par rapport aux autres, comment ils sont activés en réseau par rapport à la société. C'est très brièvement expédié.
Ouais.
Et donc, je me suis dit que ça allait me poser un souci. Et au final, je me suis complètement laissée porter par le truc. Et au final, les personnages, je les ai caractérisés à ma manière et ça m'allait, quoi.
T'as un peu rempli les trous, ta
façon. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens et que les gens sont capables d'imaginer par eux-mêmes. Et toi, Mimi ?
Écoute, je pense que je l'ai un peu moins aimé que toi, ce qui est surprenant parce que je suis plus science-fiction que toi et que c'est moi qui l'ai choisi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas du tout de quoi ça parlait en le lançant, donc l'ouverture sur la révolution culturelle dans les années 60, j'étais là, ok, prologue, j'imagine qu'au bout d'un moment il y aura 40 ans plus tard ou 100 ans plus tard, mais ça m'a quand même happé, même si je me disais, bon, c'est quand que la science-fiction arrive, tu vois. Donc au final, j'arrivais pas à être à fond dans cette histoire de la jeune Ye Wenjie qui voit son père mourir, qui est un peu dans un camp de travail et tout, parce que j'étais là, d'accord, c'est quand que la science-fiction arrive, s'il vous plaît. Après, je suis rentrée dedans malgré tout, et j'étais pas mal passionnée par ce mystère de, ok, les scientifiques, ils se suicident. Il y a aussi une histoire de gens qui voient des chiffres en surimpression sur le monde, et qui des chiffres qui forment un compte à rebours. Donc ça, c'est un super outil narratif, tu vois. Tu vois un compte à rebours, le seul truc que tu te dis, c'est qu'est-ce qu'il y a à la fin? Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait à la fin. J'ai survécu au truc un peu trop technologique pour moi et j'ai bien aimé le dénouement, tu vois, je suis satisfaite du dénouement. Mais je pense que ce manque de caractérisation dans les personnages, il m'a beaucoup plus gênée que toi et je pense que c'est ce qui fait que Malheureusement, je crois que je vais avoir oublié ce livre très vite parce que c'est ce qui m'emporte dans une histoire, c'est vraiment les personnages, tu vois. C'est ce qui me plaît beaucoup plus qu'un monde bien construit, beaucoup plus qu'un truc qui, voilà, qui se tient. C'est mon problème avec beaucoup de films de Nolan, par exemple. C'est que, ok, t'es net. Genre, quand t'es un bandeur du voyage temporel, ça marche. Mais comme les personnages n'ont pas vraiment d'identité et qu'ils sont pas réalistes, je suis pas impliquée dedans. Et du coup, j'étais, à part par ma curiosité de pourquoi les scientifiques se suicident et c'est quoi ces chiffres bizarres, il n'y a rien qui me donnait envie d'être impliquée dedans. Et il y a peut-être un frein culturel. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est un roman chinois écrit par un auteur chinois qui met en scène des personnages qui, sauf à une ou deux exceptions près, sont tous chinois et chinoises. Donc peut-être qu'il y a aussi une façon d'exprimer et d'écrire les émotions, les nuances qui... dont j'ai moins l'habitude, et c'est ok, mais je sais que c'est une critique qui a été faite pas mal au bouquin, de les personnages, ils sont, c'est plus des coquilles qui font avancer l'intrigue, c'est plus des caméras ambulantes pour qu'on suive ce qui se passe que des vraies personnes où on est attaché à est-ce qu'ils vont vivre, mourir, être trahis, avoir raison, se rendre compte qu'ils ont passé leur vie à chercher un truc, c'est pas ça, enfin tu vois, est-ce qu'ils ont des enfants, des parents, des amours, au final on n'en sait pas grand chose, et je pense que c'est ce qui m'a manqué pour comprendre la hype, tu vois, pour comprendre genre ah ok c'est prenant, et les on les a pas lus, hein, ni toi ni moi, mais dans les deux autres j'espère que il y a un peu plus ça, de qu'on s'intéresse un peu aux gens à qui tout ça arrive, parce que en termes de questions conceptuelles c'est super, ça pose plein de questions sur l'humanité machin, notre rôle, notre place dans l'espace, mais en termes d'humanité des personnages ça pêche un petit peu, quoi.
Ce qui est dommage parce qu'en plus il y a d'énormes sujets humains et notamment le deuil qui est quand même le thème qui ouvre le roman.
Bah ouais.
Et le thème du trauma en plus, voilà, avec Ye Wenjie qui donc voit son père mourir de manière atroce devant ses yeux, être assassiné, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est fou qu'on creuse pas davantage les personnages quand en plus on va parler des conséquences de leur traumatisme sur les décisions qu'ils prennent concernant potentiellement le futur de l'humanité.
Oui, oui, carrément. Et il y a des vraies questions d'éthique, de morale, des questions très philosophiques qui sont posées par le livre, mais il n'y a pas vraiment de
et c'est
de personnages
par des gens
nuancés,
dont on ne connaît rien.
Bah ouais.
C'est ça qui est un petit peu étonnant, et à la fois c'est ce qui moi m'a un petit peu hypnotisée. J'étais là, je sais pas vraiment. J'ai trouvé ça, je sais pas, un peu charmant.
Mais je suis curieuse de voir, on en parlera, mais de ce que ça donnera dans la série télé. Je sais que c'est compliqué de faire une série télé où on s'attache à aucun personnage parce que pour le coup on a quand même envie d'avoir des émotions. Peut-être qu'ils réussiront à joindre un petit peu les deux bouts et à remettre un petit peu plus d'empathie dans un bouquin qui, en soi, je dirais, pour moi, c'est un 13 sur 20, tu vois. Et je lirai le 2, parce qu'apparemment, le 2, c'est le meilleur, mais je l'entamerai, en tout cas, et je verrai si, parce que, honnêtement, si c'était pas pour le book club, moi non plus, je l'aurais pas fini. Je l'aurais peut-être lâché avant toi, parce que vraiment, j'étais là... J'aime bien les passages jeux vidéo, comme toi. Mais, et puis aussi, ça, pour le coup, c'est plutôt moi et ma culture G qui pêche, mais j'avoue que je me suis un peu perdue aussi dans tous les noms, parce qu'évidemment, c'est des noms chinois, dans les époques différentes, dans les enjeux, parce qu'il y a quand même une forme de contexte global de surveillance, de stress politique, on veut pas non plus avoir des problèmes avec le parti, avec le gouvernement, tout ça, à laquelle je pense que je suis pas très familière, quoi.
Pareil.
Voilà.
C'est des choses qui peuvent tenir un petit peu à l'écart. Mais encore une fois, si on lit bien les notes de l'auteur...
Oui, tu as bien fait le travail.
Et qu'on a Wikipédia à côté, en vrai, on s'en sort, même si, tu vois, là, aujourd'hui... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que t'as l'impression de comprendre sur le moment. Je sais pas, en effet, si dans 3 mois, je serai capable de réexpliquer ce que j'ai appris dans le livre.
Ce résumé extrêmement limpide que tu nous as offert, mais aussi toutes nos connaissances sur la révolution culturelle de la fin des années 60 et du début des années 70 en République populaire de Chine.
C'est vrai que c'est d'autant plus étonnant, juste pour en revenir à cette histoire de personnage rapidement, parce que j'ai cru comprendre que l'écrivain était né pendant la révolution culturelle chinoise.
Juste avant, quelques années avant.
Et c'est vrai que du coup, d'avoir été témoin de ça, c'est marrant qu'il n'y ait pas eu plus de, tu vois, de quelles ont été les conséquences psychologiques et comment est-ce que ça a nourri les personnages. C'est vrai que cette absence est quand même curieuse. Et je me suis demandé si elle n'était pas absolument volontaire tu vois, il y a deux personnages, notamment dans le roman, qui sont mariés, mais qui ne partagent rien.
Rien du tout.
Yu Shenfei et...
Donc, Wang Miao et sa femme,
non,
tu veux dire
non.
Donc, alors, on va pas rentrer trop dans les détails. Il y a des personnes, mais c'est pas les seuls, il y a au moins deux couples mariés
qui
ne sont jamais
montrés
comme partageant des émotions, de l'affection. C'est vraiment des items couple avec ou sans enfant dans société, quoi.
Et j'ai trouvé ça très intéressant, ce que ça disait de ce que pouvaient être deux personnes qui vivaient ensemble et qui, en fait, ne s'aimaient pas tant et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, l'extrême froideur qui place entre chacun des personnages du roman.
Et qui peut être une réaction aussi au trauma de Exactement. La révolution culturelle. Et générer aussi une forme de nihilisme, tu vois, de Carrément. À quoi bon s'impliquer émotionnellement dans la vie, puisque, enfin, juste... autant se dédier corps et âme à des recherches scientifiques relativement incompréhensibles, puisque de toute façon, s'attacher aux autres n'est que risquer d'être blessé. Tout ça, tout ça.
Exactement.
Ok, je pense que c'est la fin de la partie sans spoiler. Ok. Sauf si tu avais des choses à ajouter. Comme ça, on va arrêter de stresser de ce qu'on pourrait vous révéler. Donc, à partir de maintenant, on va parler de tout ce qui se passe dans Le problème à trois corps, tome 1 de cette trilogie. Donc, on va pas vous révéler la suite. Et si vous comptez regarder la série Netflix, ça risque de vous spoiler aussi la série Netflix. Ça me semble logique. Ok, j'ai noté des questions, j'ai noté des thématiques du bouquin, mais bon, on est plutôt sur une discussion comme ça. À bâton rouge.
Oui.
Donc allons-y maintenant qu'il n'y a plus la peur des spoilers. Qu'est-ce que t'en dis de Le problème à trois corps ? Est-ce qu'il y a des aspects dont t'as envie de parler plus en détail maintenant que tu n'as plus peur de cacher le plaisir des gens ?
En fait, moi, il y a un truc qui m'a déçue pendant toute une partie du roman, c'est que ce truc qui, pour moi, est ultra fondateur dans l'attention que j'ai portée au roman, qui était ce compte à rebours. Mm-hmm. On l'oublie complètement mais pendant les deux tiers du roman, quoi. Et je suis là, au début, t'es là. Donc, en gros, vous vous rappelez, Wang Miao, il est en train de prendre des photos. Et donc, au début, c'est sur sa pellicule que ça imprime son compte à rebours, etc. Et donc, il sait qu'il va se passer un truc à la fin. Et puis après,
ça change de couleur selon la photo, ce qui est genre impossible.
Si le fond est blanc, ça devient noir. Si le fond est plutôt noir, ça devient blanc. Et là, OK, on veut vraiment me montrer qu'il y a un truc horrible qui va se passer à la fin de ce compte à rebours. Après, il prend d'autres appareils photo. Il demande à sa femme de les prendre en photo. Il se dit, si ça se trouve...
Mais il est fou, quoi.
Prenez des photos.
C'est intense comme moment.
Ah, mais ce moment, moi, j'étais là, OK, je tourne les pages et tout. Et puis après, c'est carrément imprimé sur sa cornée, il le voit tout le temps. Et donc, après, il va voir la meuf de la société des frontières de la science, elle lui dit quid. Et elle lui dit, en fait, arrête tes recherches en nanotechnologie.
C'est quoi la solution? C'est arrête la science.
Arrête de travailler.
Arrête
moi, j'aurais
science,
dit,
frère.
OK, je vais en Grèce. Salut.
Écoute, il y a deux ans, on se dit, toi et moi, arrête de travailler. Bon, ça, c'est, on a été moins compliqué à convaincre.
C'est clair. Sauf que lui, il aime vraiment les nanotechnologies, il veut pas arrêter, en fait.
Et surtout, il est censé enquêter sur la société de la science, donc ça l'arrange pas de se reconvertir là tout de suite, quoi.
C'est clair. Mais donc, attends, après, moi, je vois qu'il y a un compte à rebours sur ma putain de cornée. T'inquiète que j'arrête d'enquêter, hein. Je suis là. En vrai,
d'un autre côté,
mieux,
je suis là. C'est le moment où je vais peut-être enquêter sur ce qui se passe, quoi.
Parce tu vas mettre ta vie en jeu.
Mais il y a juste une meuf qui lui dit, si t'arrêtes la science, ça va partir tout seul. Mais c'est pas parce que le compte à rebours, il part, que ce qu'il y a au bout, il part, tu vois. Moi, je serais là.
Ah ouais. Moi, j'aurais tendance à dire, il y est plus, ok.
Non, probablement que j'irais vivre dans le déni et j'irais à Mallorca.
Bien sûr.
Bon. Non, mais c'est quoi le compte à rebours? En plus, c'est pas très long, tu vois. C'est pas genre 4 siècles. Donc, je suis là.
J'ai fait le calcul, c'est 40 ans, je crois.
Voilà, il nous reste pas grand chose. Autant aller boire la sangria au soleil, quoi.
Non, mais c'est clair. Et donc, du coup, il y a tout ce truc où il est paniqué. Les gens se disent, mais il est complètement zinzin. Il a l'air d'être fou. Il commence à s'acheter des lunettes de soleil parce que, à force d'être omnubilé par ce compte à rebours devant ses yeux, il est comme ça en train de loucher. Et puis, donc, il arrête. Il suspend momentanément la recherche dans son laboratoire. Mm-hmm. Et ça s'arrête. Et là...
Donc oui, ça marchait d'arrêter la science.
Ça marchait, et là, on n'en entend plus parler.
Mais il n'est pas stressé.
Les deux tiers du livre.
Mais oui, et il croise plein d'autres gens de la société des frontières de la science, etc. Et il demande pas. Et du coup, vous aussi, le compte à rebours, c'est fini. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il travaille. Et c'est très mis en avant dans la bande-annonce de la série Netflix et tout. Et j'étais, quand je l'ai revu après avoir fini le livre, et j'étais là. Vous attendez pas trop à grand chose avec le compte à rebours, parce que il y a même Émilie dans le chat qui dit, je me suis demandé si j'avais pas lu trop vite et zappé le moment où ils en reparlaient. Du coup, je suis revenue en arrière et non, ils juste ont, non. On
sait mais ouais, vraiment, on comment faire monter la sauce pour rien? Pétard mouillé de fou. Et après, ce qui m'a un peu saoulée, c'est que je trouve que l'auteur prend pas assez le temps de développer les grands drames qui se jouent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se font tuer et tout le monde s'en bat.
Mais ça se tire dessus dans un genre d'AG révolutionnaire et tout, machin. C'est comme si demain, il y a les soulèvements de la Terre. Ou de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, là. Et t'as vraiment le commissaire et un scientifique et des flics qui rentrent, qui sont là... Arrêtez le truc! Et les autres sont là, on a une bombe! Ils font, ah ouais, vous avez une bombe! Pam! Ils tuent sur la meuf avec la bombe. Et ils font, voilà. Et on n'en reparle pas.
Voilà, vraiment, tout le monde s'en fout! Bon! Du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que tu montes un truc... Tu fais monter la mayonnaise comme ça et tout, c'est super, on s'attend à des grands moments. Et puis en fait, ça retombe un petit peu comme un soufflet. Et je trouve qu'en effet, le problème dont on parlait avant, de manque de caractérisation des personnages, fait qu'il y a certaines de leurs décisions qu'on ne comprend pas. Mm-hmm. Et notamment Ye Wen-je, à la fin, quand, bon, on est dans la partie spoiler, mais quand elle appuie sur le bouton et qu'elle envoie un message au Trisolarien, j'étais là, ok, donc gros bail, mais ce qu'elle délivre comme message, ce qui est venez réduire l'humanité.
Notre civilisation ne voilà. sortira pas sans vous, donc venez, quoi.
Venez réduire l'humanité en cendres, quoi, globalement. Et, t'es là, ah bon, Wen-je, t'étais vraiment dans ce bail-là de pessimisme. Parce qu'on capte que ta vie, c'était pas folichon.
Oui.
Mais de là à ce que tu veuilles réduire la planète en cendres et que tu sois à ce point-là pessimiste sur le futur de la race humaine, j'avais pas vu venir, quoi. Bon, je m'en suis doutée quand même, je suis pas complètement neuneu.
Ouais, en plus, après, y a pas de livre sinon, quoi.
Ouais, voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres tomes en plus. Mais et du coup, je trouve que le seul truc, donc j'ai été absolument captivée quasiment du début à la fin, mais ce qui m'a manqué, c'était que les grands temps narratifs ne prenaient pas le temps d'être vraiment digérés, quoi. Et que tout de suite, tu passes à un autre truc, et t'es là, ah bon.
Oui, bah, tout est un peu au même niveau. C'est d'importance ça. Dans l'écriture, dans le rythme et tout. On ne s'attarde pas forcément sur des choses. Enfin, on peut passer autant de pages dans une nouvelle itération du jeu vidéo, alors c'est important, mais parfois c'est juste des entre-deux, quoi, que sur la décision qui va changer l'avenir de l'humanité et de l'univers quasiment forever, quoi.
Mais oui, c'est ça.
Après, peut-être que ça... Enfin, on peut toujours interpréter, tu vois, je me dis qu'on peut interpréter Ye Wen-je comme, à la fois, il y a un côté nihiliste, de autant ruiner l'humanité qui n'a plus d'avenir, et peut-être aussi un côté de, justement, sa vie, elle a été enfermée quasiment toute sa vie dans cette base et tout, elle s'est dédiée à une seule chose, peut-être qu'elle se dit, là, je vais avoir un impact, tu vois, là, ça va compter, je vais faire un truc qui va... Je vais être l'humaine la plus importante de l'histoire de l'humanité, celle qui a... contacter les extraterrestres et qu'il leur a dit venez, mais c'est une interprétation, c'est un peu ok, on peut remplir les trous comme on veut.
Non, mais elle le dit, j'ai enfin trouvé ma mission sur cette terre.
Ah oui,
elle
bah
le
voilà,
dit
ça,
vers la fin du bouquin, elle dit ça y est, je sais qu'enfin j'ai une utilité dans ce monde et c'est de le révolutionner à ma manière en invitant donc
c'est une belle révolution. Quoi.
Mais c'est vrai que tous ces passages, moi j'ai adoré les passages dans le jeu, mais putain, il y en a beaucoup
ouais.
Et il y en a qui sont longs. Et alors moi, là où ça m'a perdue, je crois dans ton conducteur, il y a écrit « Quand c'est ton cerveau, il a fait boum ».
Oui, c'est une question qu'on a eue sur Instagram. À quel moment votre cerveau a fait boum ?
Moi, honnêtement, la partie dans le jeu où il y a l'un des empereurs là, d'une des époques qui décide de dire « Ok » pour Wang Miao, Newton et je ne sais plus qui, pour dire « Ok, on construit un ordinateur humain à Bakuga ».
Ah là, j'ai pensé à toi, c'est là, mais Kalindi, elle m'a fait détester. Le gars, il construit un ordi, c'est des gars
avec des drapeaux. Putain, j'étais là.
Ça fait des 0 et des 1, c'est du binaire. Mais non, moi, je sais pas
voilà,
comment ça marche,
vois,
un ordinateur.
Stop, j'étais là.
Genre, en vrai, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu de la sorcellerie, tu vois. On parle dans des micros devant des trucs en plastique et en aluminium. Et il y a des gens partout dans le monde, ils nous entendent, ils nous
ça,
voient.
Ça, c'est sûr.
En direct.
Non, mais on la pratique, mais on ne l'explique pas.
Et ah, très peu.
Et c'est ça qui est terrible. Et donc, j'étais là, ok, là, vraiment. Mais du coup, ça m'a un petit peu aidé à comprendre le fonctionnement d'un ordinateur.
Et oui.
Et en fait, c'est la force de cet auteur, je trouve, c'est qu'il y a plein de moments où j'étais là, ok, fond diffus cosmologique, ok, truc sinusoïdal, ok, l'ordinateur humain à base de drapeaux 1-0 noir-blanc, a priori, j'ai envie de crever. Mm-hmm. Et il arrive quand même à me faire m'y intéresser sans que ce soit un pinsomme absolu et sans que j'ai l'impression de lire un essai mathématique, tu vois.
Oui.
Et ça, bah chapeau au gars, quoi. Parce
non,
que ça veut dire qu'il l'a rendu accessible au tout un chacun dont je fais partie, une espèce de nullos de la science. Et franchement, c'est un petit plaisir, quoi.
Je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a plein de concepts complexes que le livre arrive à nous faire appréhender. Pas forcément comprendre à 100%, mais en tout cas, voilà, appréhender les enjeux ou appréhender l'idée large de, ok, l'idée large d'un ordinateur, c'est qu'il faut qu'il y ait des infos qui circulent et que, bah, à un moment, du coup, avec ces guerriers, ils se disent, bah, il y a des guerriers qui peuvent avoir plus qu'un drapeau. Donc, ils ont pas que blanc ou pas blanc. Oui. Ils ont blanc ou bleu. Et du coup, bah, ça augmente de façon exponentielle le nombre de données qu'on peut. En fait, c'est ça, c'est de la transmission de données. Donc, je suis là, ok. Même pour nos deux esprits pas scientifiques, ça, franchement, ça marche. Et je trouve que les questions, les enjeux éthiques et métaphysiques que pose le livre, ils fonctionnent aussi. Puisque donc, l'intrigue avec spoiler, c'est que ce mystère qui frappe de nombreux physiciens et scientifiques du monde entier et cette histoire de compte à rebours, en fait, c'est le plan d'une vraie civilisation extraterrestre qui s'appelle les Trisolariens, qui sont la civilisation qui est mise en scène dans le fameux jeu vidéo. Les Trisolariens, ils vivent sur une planète qui est condamnée parce qu'elle est concernée par le problème à trois corps, c'est-à-dire qu'il y a trois soleils. Et qu'apparemment, en mathématiques, enfin en physique, le problème à trois corps, c'est un vrai truc. Et ce qui fait que quand il y a trois objets qui interagissent entre eux, c'est impossible de prévoir. C'est chaotique. Il n'y a pas de rythme qu'on peut prévoir. Et du coup, bah, ça fait une civilisation qui est condamnée par le fait qu'il n'y a pas de rythme et que les soleils, des fois, ils les crament, des fois, ils gèlent et tout. Et ce qu'elle a fait, Ye Wenjie, qui en elle travaillait sur la grande parabole, la côte rouge, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'en envoyant un message dans le soleil, elle pouvait l'utiliser comme un genre de caisse de résonance pour que le message aille beaucoup plus loin dans l'espace.
Ça augmente les micro-ondes de la télétransmission, c'est ça ?
Merci. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien, ce que c'est mon gars. Je sais juste que... Et ça, par exemple, tu vois, typiquement, je sais pas si c'est de la science ou de la fiction. Je sais pas si, en vrai, le soleil peut servir, même théoriquement, d'amplificateur de messages cosmiques. Peut-être, peut-être pas, mais comme il l'explique, ça avait l'air vrai.
Donc, ouais, ouais, carrément.
J'en ai pas encore parlé avec ma grande sœur physicienne de ce bouquin, donc j'ai pas toutes les infos encore. Et donc, elle
contacte...
C'est
de la fiction, nous dit Ezoc.
D'accord, merci. Je me dis que ça, on l'aurait découvert, tu vois, le soleil, genre, ça fait longtemps qu'on taffe dessus, donc, ok. Et donc, ce message atteint Trisolaris, et où tous les Trisolariens, enfin, beaucoup de Trisolariens, sont occupés à guetter des messages qui viennent d'ailleurs dans l'espace pour trouver une planète à coloniser, tout simplement, parce que la leur, elle va finir cramée par leurs trois soleils. Le garde qui reçoit le message essaye de prévenir la... répond, c'est un pacifiste de Trisolaris, et il essaye de prévenir la Terre en leur disant « Ne nous envoyez plus de messages, parce que sinon, on va pouvoir détecter où vous êtes, et ce sera pas bon pour vous si on détecte où vous êtes. »
Sympa, le gars, quand même.
Ouais, sympa. Et au risque de sa propre vie et de toute sa civilisation, et il dit mais en fait notre civilisation elle est devenue tellement totalitaire sur Trisolaris, on ne vit que pour survivre, peut-être que du coup on ne mérite pas de survivre si c'est aux dépens d'une autre civilisation, donc peut-être que juste on doit arrêter de trouver une planète à envahir et juste faire notre vie. On n'a pas du tout de description de à quoi ils ressemblent, quel type d'alien c'est juste des dialogues quoi, donc on va se dire qu'ils ont des raisonnements un peu comme
mais c'est ce que dans je le jeu imaginé, oui. Mais, oui,
mais
voilà, c'est
en
ça.
Fait on n'en sait rien, ouais. Je suis un peu curieuse de ça dans la série. Et Ye Wenjie a reçu le message qui dit n'écrivez plus sinon on va vous trouver et ce sera pas bon pour vous, et elle a décidé quand même de dire coucou on est là
et venez et n'hésitez pas à nous coloniser,
en tout cas de condamner la Terre à être à portée d'extraterrestres qui, si je me souviens bien, Trisolaris c'est sur Alpha du Centaure, donc un des systèmes les plus proches du nôtre géographiquement. Et les Trisolariens sont en route, sauf que c'est long, et donc parmi 450 ans,
ça fait long.
Oui, 4 années-lumière à parcourir. Et leur plan pour que les humains ne soient pas préparés à les attaquer quand ils arrivent, c'est entre autres d'affaiblir la puissance scientifique de l'humanité pour que l'humanité ne se rende même pas compte qu'ils sont en train de venir, parce qu'ils viennent avec un genre de protons repliés avec dedans
ça,
des infos.
Compris.
Bref,
alors voilà, ça
la
c'est
fin.
Le passage qui m'a perdu. La fin,
attends,
là,
je finis le résumé, mais on va en parler du proton, du proton grand mais petit, parce que je suis là. C'est quoi, c'est en TARDIS ? Bref. Donc, ils veulent que la science, la recherche scientifique, le progrès scientifique s'interrompe ou se ralentisse sur Terre pour qu'on puisse même pas les voir venir et encore moins se protéger de leur arrivée. Et du coup, bah, ils envoient via un proton qui se déplie, des interférences dans les accélérateurs de particules, qui sont des vrais trucs utilisés en physique des particules, d'où la physique n'existe pas, c'est que les accélérateurs du monde entier se mettent à donner des résultats qui n'ont pas de sens et qui donnent à penser que tout ce qu'on pensait comprendre sur la physique et comment notre monde, au niveau même atomique, est construit, n'est pas vrai. Et du coup, bah, y a des chercheurs qui deviennent fous et qui se foutent en l'air. Et pareil, le compte à rebours, c'est aussi un coup des extraterrestres pour les faire stresser. Et comme on le voit, quand t'arrêtes tes recherches scientifiques, le compte à rebours, il te laisse tranquille. Donc, si on arrête les recherches, ça les arrange. Et voilà, c'était ça le résultat du mystère. Et le livre, le tome 1, se termine avec... Bah, maintenant, il y a des humains, dont Wang Miao et Shi Chang, qui savent que les extraterrestres arrivent.
Tout à fait. Enfin,
il y en avait déjà, il y avait l'organisation Terre Trisolaris qui est au courant, qui est une organisation secrète, qui est au courant, présidée par Ye Wenjie, de l'arrivée des extraterrestres et qui la prépare. Mais maintenant, il y a des gens qui sont au courant, qui ne sont pas forcément favorables au fait qu'on se fasse coloniser par les Trisolariens. Voilà.
C'était ça. Sacré morceau quand même.
Est-ce que tu penses que c'est une résolution satisfaisante à ce mystère?
Bah,
que
oui,
littéralement, c'est les aliens, déjà.
Oui, oui, oui. Bah, parce que de toute façon,
pas
on sait que,
futur,
étant donné qu'il y a trois tomes, ça pose vraiment les jalons de ce qui va se passer dans la suite. Et personnellement, vraiment, ça m'a donné envie de lire le second tome. Donc, pour moi, c'est que c'est plutôt réussi. Je racontais un petit peu avant que j'étais pas du tout habituée à la science-fiction, que j'étais très loin d'avoir des bases en physique quantique, ne serait-ce qu'en mathématiques
primaires. On n'est pas fibre au tigre.
Voilà, c'est ça. Et que mine de rien, l'auteur avait réussi à créer des mondes, notamment via ce jeu vidéo extraordinaire, qui nous avait passionnés toutes les deux, et qu'on avait réussi à aller au bout de l'intrigue sans trop souffrir, quoi. Alors évidemment qu'il y a des moments, les protons là à la fin, bon, c'était infernal.
Ouais.
Et d'ailleurs, je suis passée, je vais pas mentir, il est temps d'être honnête avec nos viewers, je l'ai lu en diagonale cette partie.
Alors, tu l'as fini quand aussi le livre? Il faut dire que hier, Kalindi m'a dit, je l'aurais peut-être pas fini demain, mais au pire, tu me raconteras la fin pendant le live, ce sera sympa. J'étais là, je sais pas si. Est-ce que je peux raconter là? Est-ce que c'est explicable la fin? Genre, au final, oui, c'est pas si compliqué à expliquer, mais j'aurais pas pu te raconter le proton, mon gars.
Non, j'aurais pas pu.
En gros, si j'ai bien compris, le truc du.
Ah, tu te risques à l'expliquer. Ok, vas-y.
Trisolaris veut envoyer des trucs qui perturbent du coup la science sur toute la Terre. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de quoi envoyer des données de fou, parce que c'est hyper loin quand même, Alpha du Centaure, où ils habitent. Et du coup, ils se disent, il faudrait qu'on ait comme une toute petite clé USB dans laquelle on pourrait stocker plein de données. Et pour faire ça, on va envoyer un seul proton, donc une particule, mais on va, par le jeu de... Et là, on apprend que quand même, ça existe des objets en 11 dimensions, le saviez-vous? Moi, non. Que comme tu peux replier une très grande feuille en une toute petite boule, et ben le proton, s'ils arrivent à le déplier, ça fait une surface, mais genre il est dans leur ciel.
Ouais.
Et ça fait de la lumière et des formes des fois. Et à un moment, ça a fait un miroir.
Oui,
et des yeux. Et j'étais
voilà,
là.
C'était dur,
quoi?
Ça,
c'était.
Là, on m'a perdu. J'avoue.
Les yeux, je me suis dit, ça, c'est une autre histoire, un peu d'horreur. Parce que du coup, le proton, il fait tout seul. Les particules de lumière du proton, ils se mettent à faire des yeux dans le ciel de la planète de Trisolaris, qui se réunissent et s'additionnent pour être un œil encore plus gros.
Ouais, là, c'était dur.
Mais c'est quoi, c'est Thanos? Qu'est-ce qui se passe? Bref, il déplie un proton, il grave dessus, comme sur un circuit imprimé, tout plein de trucs qui vont perturber la science sur la Terre. Après, il replie le proton, tout petit, ils font le mettre dans une sarbacane, ils font... ça arrive comme ça sur Terre, et c'est pour ça qu'il y a le compte à rebours et les accélérateurs de particules qui font n'importe quoi.
Moi, je trouve que t'as
parce
pas
qu'une fois que
résumé.
Le proton il est là, c'est comme un virus, il va genre niquer tous les accélérateurs de particules en même temps.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bah, c'était pas mal, hein?
Kalindi et moi, on a fait bac littéraire et on a dû quand même essayer de concevoir un proton en 5 dimensions dans le ciel d'une planète.
Ouais.
Placée elle-même dans un système à 3 corps.
Tu vois, moi, c'est ces moments-là où je me suis dit, je comprends rien. Et à la fois, est-ce nécessaire pour comprendre les enjeux principaux de l'intrigue?
Non,
pas tant.
Parce que du coup, alors, au niveau des enjeux, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait trois... donc, parmi l'organisation Terre Trisolaris, l'OTT, donc les gens qui savent c'est quoi les bails, il y a un peu trois factions, trois visions et philosophies qui... s'affrontent, donc
les
je les ai notés. Il y a les
adventistes,
c'est comme Ye Wenge, c'est ceux qui pensent que l'humanité est foutue anyway et que c'est pas si grave si je viens de nous raser. Il y a les rédemptoristes qui
c'est
les voient comme des dieux et qui pensent qu'ils vont nous apporter la rédemption, en tout cas qui vénèrent les êtres de Trisolaris, qui n'ont pas du tout ce rapport de « ouais, c'est juste une civilisation, mais beaucoup plus dans la vénération ». Et il y a les survivalistes qui pensent qu'en collaborant avec les Trisolariens, ils s'assurent de pouvoir rester avec plus tard et tout, et du coup de s'adapter à eux. Et ça, c'était intéressant, même si peut-être que ça arrive un peu tard dans le bouquin, finalement, parce qu'on met longtemps à comprendre qu'il y a vraiment des trisolariens. C'est trois façons différentes de voir comment on réagirait si on savait, là, tout de suite, si t'apprends, qu'il y a une flotte d'une autre civilisation qui est en route pour chez nous, quoi.
Je serais clairement pas dans les gens qu'on informerait, déjà. Je pense que
mais
je serais vraiment
parce que
parmi
toi et moi...
les êtres humains qu'on... on leur dirait vraiment c'est la merde.
Non, on essaierait vraiment de te le dire, on serait là. Kalindi, la physique n'existe pas.
Et moi, je serais là, ok, d'accord. Well.
Je vais Let's manger de la saucisse au fenouil. Redites-moi, rappelez-moi quand c'est urgent.
Non, mais c'est vrai, c'est la question de... Ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Moi, honnêtement, je pense que je n'aurais même pas été au courant, en effet, de ce qui se tramait. Et puis, toi, c'est quoi déjà ? Et j'ai lu ça dans ton conducteur. Moi, je veux savoir, t'aurais fait quoi à la place de Ye Wenjie ?
Donc, quand elle reçoit la réponse qui dit « Ne répondez pas, ne révélez pas votre position »,
tu aurais sauvé toi Mimi Tenbongo.
Mais avec tout ce que je... Le truc, c'est que j'ai... Avec tout ce que j'ai absorbé comme science-fiction, et pas que, parce qu'il y a aussi des vrais scientifiques qui sont pas des romanciers de notre époque qui estiment qu'en effet, on pourrait vraiment se faire laminer par une civilisation extraterrestre, mais sans même potentiellement qu'elle s'en rende compte. Peut-être qu'elle existe dans une dimension où elle n'est pas palpable pour nous. Peut-être que des aliens vont construire un genre d'autoroute spatiale qui passera par la Terre, comme nous, on construit une autoroute qui nique une fourmilière et on s'en rend même pas compte, tu vois.
Ah, d'ailleurs, c'est un petit peu ça, le bail avec les nanotechnologies. C'est pour ça qu'ils veulent niquer le travail de Wang Miao aussi. C'est parce que... attends, il y a un truc avec... si nique ça, ça permet de niquer la oh là 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 là.
Dis-le avec tes mots à toi.
Attends, je
réfléchis. Il y a le CNES qui est là pour nous expliquer si jamais.
Non, mais le phénomène de pesanteur ne se ferait plus ressentir et donc du coup on pourrait monter dans l'espace comme dans un ascenseur.
Oui, construire un ascenseur spatial. Oui.
Voilà, et donc on pourrait se déplacer ultra facilement de la Terre à d'autres, à des étoiles. Et donc ça, ce serait pas bien, quoi.
Bah, ça nous permettrait, par exemple, de construire des accélérateurs de particules sur d'autres planètes, ouais. Genre Uranus, Mars et tout, où ils n'ont pas envoyé leur proton brouilleur, on va dire, de signaux. Donc déjà, il y a de ça. Et oui, ils veulent qu'on reste au niveau d'intelligence qu'on a. Et finalement, c'est un peu une relecture de la tour de Babel, tu vois. C'est quand les humains essayent de s'élever au-delà de leurs conditions qu'une puissance supérieure dans le ciel dit « Non, non, vous restez à votre place ». Donc je pense que j'aurais pas appuyé sur le bouton parce que j'ai été élevée à oui, une civilisation alien peut vraiment détruire la Terre et les humains, c'est pas très compliqué à imaginer. Et j'ai beau être quand même un peu lucide sur à quel point les humains sont capables de s'infliger des choses horribles aux humains et aux autres êtres vivants de notre planète, je suis optimiste. Je ne pense pas qu'il y a rien à sauver dans l'humanité. Et je pense par contre qu'en tant qu'être conscient, on a montré qu'on est très fort pour coloniser et réduire en esclavage tout ce qui nous ressemble pas. Donc, il n'y a pas de raison de penser que des aliens seraient plus magnanimes que nous à ce niveau-là, tu vois. Voilà.
Et à la fois, tu vois, j'écoutais Est-ce une nana toi, tout à l'heure... Non, mais juste, j'écoutais une nana tout à l'heure sur YouTube, dont j'ai oublié le nom, je retrouverai. On les mettra dans les notes du podcast. Mm-hmm. Mais j'écoutais une jeune femme faire une vidéo qui était hyper intéressante. Et elle disait qu'en vrai... Alors, si j'ai bien compris, et pour résumer un petit peu sa pensée, elle disait que si une intelligence extraterrestre... J'en reviens pas que je parle de ça un mercredi soir. Waouh, c'est tellement différent de ma vie habituelle. Que si une intelligence extraterrestre avait justement la capacité à déjà communiquer avec nous et à potentiellement pouvoir se déplacer
voyage interstellaire,
voilà,
même, quoi.
Ça voudrait dire qu'elle serait tellement évoluée d'un point de vue technologique et scientifique qu'il y aurait vraiment aucun intérêt pour elle de se faire chier à venir chez nous, qui sommes de fait qui serions moins au fait des technologies et de la science, et que en fait si cette intelligence extraterrestre venait, ce serait que dans un but morbide, malsain, de juste nous anéantir pour le plaisir, mais pas vraiment
pour piller autre nos chose, ressources, tu vois, genre ah on a besoin de H2O et sur cette planète il y en a plein et du coup on va le prendre, tu vois. Mais après, nous les humains, on a un intérêt, tu vois, on étudie une fourmilière, on a un intérêt pour les choses, même les êtres moins développé que nous, de comprendre comment ils marchent. Donc peut-être qu'ils pourraient nous observer pour comprendre comment on marche. Mais je pense aussi que... Bah, et c'est un des messages de beaucoup d'œuvres de SF, c'est si on se met dans la peau d'un alien qui nous observe, quelle image on donne de nous,
bah
tu
oui,
vois,
c'est ça, bien sûr.
C'est quand même le thème du cinquième élément, par exemple, très bon film de science-fiction. C'est à quel moment notre espèce mérite, entre guillemets, ou pas, d'être sauvée. Mais moi, je suis pas... En fait, je suis jamais... dans le tout ou rien, tu vois. Je suis jamais manichéenne.
Ah, toi, t'es la mesure
je suis
même.
Pas sur, bah oui, venez niquer tout le monde, tu vois. Mais je serais pas sûr. En mode.
Mais moi, j'aurais jamais.
Moi, j'aimerais bien pouvoir parler avec les trisolariens et dire, mais vous avez une Hesse dans votre planète, mais on s'entraide. Vous venez, on vous fait de la... Je sais pas où, c'est compliqué, mais on fait de la place. On a plein de planètes dans notre système solaire, elles servent à personne. Mmh. Et il y a qu'un soleil, donc c'est déjà mieux que chez eux, tu vois. Je dis pas, ils méritent pas d'avoir Disney World, mais petit à petit, tu vois, ils peuvent construire Disney World.
Ah ouais, moi j'aurais jamais appuyé sur ce bouton, déjà parce que j'aurais jamais été dans cette situation où on me laisserait approcher un tel bouton, vraiment, ça n'arrivera jamais.
Sur un malentendu. Ouais. Après, bon, il y avait d'autres gens avec... Enfin, il y avait... D'autres scientifiques et d'autres gens avec elle dans la pièce. Et
incroyable.
Elle a quand
non,
même
cette
fait
scène est un peu abracadabrantesque.
Elle était là en mode, je touche le truc.
Cette scène est un peu le moment où j'ai levé les yeux au ciel en me disant, ouais, bon. Mais non, moi non plus, j'aurais jamais appuyé sur ce bouton parce que j'ai encore un fond d'espoir en l'humanité en moi, j'ai encore un fond d'optimisme, même si c'est pas ce qui me définit principalement. Mais je l'ai trouvé ballsy finalement, Wang Jie, et je me doutais que quelqu'un allait appuyer sur ce bouton, et je me doutais que ça allait être elle, vu que bon, on nous le souligne un peu dès le départ. D'ailleurs, c'est vrai que tout est un peu souligné. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est même pas ce qui m'a tellement dérangée.
Bah, c'est à la fois souligné, et comme on l'a dit, les personnages sont pas hyper creusés dans leur motivation et tout, donc c'est vrai qu'ils ont un peu tous une seule motivation et du coup bah on s'y attarde pas mal,
c'est
quoi.
Ça.
Donc bah elle est traumatisée, un peu nihiliste et pas très confiante en l'espèce humaine. Wang Miao, il a vaguement des sentiments pour une des scientifiques décédées, mais même pas tant, et sinon il fait son enquête et il voit les chiffres, hein, voilà.
D'ailleurs, j'adore que Ye Wang Jie soit enceinte et que ça tombe vraiment comme et en fait, elle était enceinte. Ta ta ta.
Ouais,
et
ces
fait...
gens ont des enfants, ces gens sont mariés comme on l'a dit, hein. Enfin, ils ont une vie, tu vois, ils mangent des trucs, des fois ils ont la gastro, enfin
oui, c'est vrai.
Ils ont des éclats de rire, ils boivent des coups, tu vois, et c'est pas Bon, alors il y a pas mal de scènes où ça picole en jouant au billard dans les années 2000, histoire d'oublier.
La scène du billard du début, je me suis dit, oulala, ça va être très compliqué.
La scène qui explique quand la physique n'existe plus.
Ah ouais, c'est compliqué, parce qu'en plus, je me suis dit, bon, ça y est, cette fois-ci, il va pas réussir à mettre la boule dans le trou. Et à chaque fois, il y arrive. Et je suis là, donc qu'est-ce qu'on essaie de démontrer s'il y arrive à chaque fois? Enfin, c'est pénible. Et je me suis dit, bon, quand est-ce qu'il va échouer à mettre cette boule dans le trou? Et puis, il n'échoue jamais. Donc, et le billard revient à sa place, et j'étais là, j'ai pas compris la démonstration.
Mais ça fait partie des grandes idées que le livre explique tant bien que mal, sans abuser de vocabulaire technique, mais c'est un peu comme dans... Moi, ça m'a fait pas mal penser à Premier Contact, Arrival, un film de Denis Villeneuve, qui est aussi adapté d'une longue nouvelle de SF, et où il y a une des idées, c'est que sortir de la perception linéaire du temps qu'on a en tant qu'humain, il y a le passé, le présent et le futur, arriver dans une perception du temps où le passé, le présent et le futur coexistent, s'entremêlent, où tu peux écrire le début et la fin de la phrase en même temps et là ça se rejoint au milieu et tout, ça change fondamentalement ta vision du monde. Et je pense qu'il y a de ça avec cette histoire de billard, puisque l'idée c'est voilà, on fait le même coup au billard dans plein de situations, on bouge la table et tout, et la boule elle va toujours dans le trou, et ça finit avec le gars qui dit, et maintenant imagine qu'à chaque fois qu'on ait fait ça, la boule a fait un truc différent. On a fait le même geste sur la même surface et une fois elle est partie au plafond, une fois elle s'est dédoublée, une fois elle a traversé la matière et tout. C'est ça qui est en train de se passer. Et au final, c'est une bonne façon d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand les lois de la physique n'existent plus. Mais comme il se passe rien de dingo dans le monde à part les chiffres, tu vois, c'est pas comme si genre Inception, ça y est, les rues elles se plient, je sais pas, tu vois, genre c'est.
Mais c'est aussi parce qu'on ne sort pas de la communauté scientifique. Et je me suis dit que c'était peut-être un truc qui manquait à ce roman. C'était un point de vue extérieur.
Un stagiaire, finalement.
Non, mais je me suis dit, je trouve que c'est toujours intéressant dans un récit, enfin dans une histoire, d'avoir un point de vue extérieur à la communauté qu'on analyse pour que le commun des mortels puisse un petit peu s'identifier et puis rentrer petit à petit dans ce gros sujet qui est la physique quantique.
Ouais, donc, gros sujet, ouais.
Et en fait, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé voir, c'est qu'en plus de cette communauté de scientifiques avec des profils divers, on ait affaire à quelqu'un, peut-être un héros qui n'aurait rien à voir avec la choucroute et qui se serait retrouvé catapulté dans cette affaire un peu malgré lui. J'aurais adoré ça. Et je me serais vachement plus identifiée qu'à tous ces gens dont je ne partage pas un tiers du cerveau, quoi.
Après, j'ai l'impression que l'auteur essaye un peu de faire ça, puisque Wang Miao est, voilà, comme on l'a dit, chercheur, mais en nanomatériaux. Et lui, en fait, il y a beaucoup de ses premières interactions avec les gens de la Société des Frontières de la Science qui sont pour dire... désolé, reprenez depuis le début. Moi, je suis pas du tout en physique. Je comprends pas tout ce dont vous
ça
me parlez.
Ça reste des scientifiques.
Mais je pense que oui, c'est un peu l'idée...
Et
d'un auteur extrêmement nerd de dire « Ah, je vais faire une porte d'entrée, un mec qui s'y connaît pas trop, il est juste chercheur en nanomatériaux, il n'est pas physicien, c'est pas pareil pour toi et moi, c'est genre... » Lui, il comprend les équations, il y a des lettres grecques dedans, tu vois. Nous, non, donc c'est le même peuple. Et effectivement, le policier, le commissaire, alors, peut-être oui, que ça vrai. Aurait dû être un peu plus le personnage principal, parce que lui, vraiment, il n'est pas dans cet univers-là, mais il est très humain. Il a
et
un
c'est
flair.
Plus caractérisé, d'ailleurs.
Ouais, et lui, c'est vraiment une gueule. C'est un personnage qu'on imagine, il fume des cigares, enfin, il clope tout le temps et tout, il est bourru, machin.
Il cendre dans les tasses de ses camarades.
Ah, ça dégue. À un moment, il manque de boire son thé avec la cendre de sa clope dedans. Ça me dégue, ça me rappelle trop de soirées étudiantes. C'est horrible avec les canettes de bière vides là.
Non, mais si, t'as raison, Ezoc. C'est vrai que c'est un petit peu par lui qu'on rentre là-dedans. Et c'est vrai que c'est un profil un petit peu trop archétypique, malheureusement. Et
je suis sûre qu'à un moment dans la série là, Netflix, le flic il va parler à un scientifique qui lui expliquera un truc. Et le flic il va dire. En anglais maintenant, s'il vous plaît, pour que vraiment dire parle ma langue, je comprends pas la langue des nerds. J'espère pas. Enfin, plutôt en mandarin, please.
Et d'ailleurs, je me suis demandé en voyant la bande-annonce, donc là, ce qu'ils appellent la V-combinaison pour pénétrer en réalité virtuelle le jeu. Dans la bande-annonce, on est d'accord, ça n'est qu'une espèce de casque de réalité virtuelle, en espèce de truc chromé là.
Ouais, et ça a même pas l'air d'être un casque qui te couvre les yeux ou quoi. Ça a l'air d'être plutôt quelque chose qui agit sur tes neurones direct, en mode Elon Musk, tu vois, en mode ouais, Neuralink, je sais pas. Mais en effet, on est loin de.
Alors parce que donc je suis pas complètement folle.
Du truc de motion capture, comme un truc de plongée.
Je me suis dit en fait, j'ai rien compris là. Avec combinaison, c'est vraiment un casque pour le crâne et les oreilles. Tu
non,
vois,
non, dans le livre, c'est douté. Plus compliqué que ça. Alors c'est peut-être pas Ready Player One où ils ont des tapis roulants et tout, mais c'est pas juste un joli ouais. bout de métal. Après, c'est un choix artistique.
C'est très joli d'ailleurs.
Qui se défend, c'est très ouais, élégant. Ouais. Et c'est le truc qui va être, je pense, le plus intéressant à voir quand même dans la série, c'est comment ils vont faire Trisolaris et le jeu de le jeu vidéo. Mais je suis très contente que ces passages t'aient plu. Quelqu'un dans le chat disait j'ai très envie de voir pour de vrai Kalindi jouer au jeu Trisolaris vu un peu d'expérience sur les jeux vidéo.
Et... Arrêtez de vouloir me faire à chaque fois que je parle de jeux vidéo, les gens sont là. J'aimerais bien devoir faire ça. Je serais morte au bout de 10 secondes.
Bah, surtout que là, c'est un jeu vidéo où il faut comprendre comment résoudre le problème à trois corps, non, qui est voilà. le problème, même les vrais physiciens de la vraie vie ne savent pas, tu vois.
Mais donc, bien sûr, ils sont genre 7 à passer le niveau 1, donc... Oui.
Et après, t'as un mail qui dit « Nous vous recontacterons bientôt », c'est vraiment t'as passé le TOEFL, il y a un autre truc de sélection derrière, quoi.
C'est exactement ça, mais moi, honnêtement, j'aurais même pas eu le temps de me déshydrater, que j'aurais déjà été brûlée vive 806 fois.
T'aurais cherché la boutique de fringues de cette petite ville. Comme sans dans vos. Mais j'étais pas sûre que tu rentres dans ce délire de déjà, bon, c'est un jeu vidéo machin, et en plus, tu comprends pas. Voilà, t'arrives, t'as à chaque fois une personnalité historique réelle différente.
Ça qui est marrant.
Qui nous raconte des trucs. T'as
le gars qui cuit dans sa cocotte.
Ouais,
oh,
voilà.
Super, j'adore.
Un gars qui, à un moment, le héros lui-même, il se fait brûler vif, tu vois, en mode inquisition. Et je me suis dit, ça passe sous sa casse.
Non, c'était drôle.
Ça va. Mais ouais, c'était
c'est drôle. Le gars qui se fait cuire dans la cocotte. Et ça fume. Et là, bah, dis donc, il se fait cuire dans la cocotte. Bah, c'est
il y a un côté quasi Monty Python, tu vois, où il y a moyen de faire des scènes très bizarres avec ça, quoi.
Non,
et en même temps, c'est tout. Enfin, il y a quand même un enjeu de type mortel, quoi.
Oui.
Traité à la légère. Donc ça fonctionne.
Ouais, non, j'ai trouvé ça très amusant, vraiment, les passages dans le jeu, à part quand il y a eu cette affaire d'ordinateur humain, là où je me suis dit stop, mais sinon je me suis vraiment...
Last, je dis stop.
Mais sinon, je me suis vraiment éclatée. Et en fait, donc je lisais les derniers jours, là, dès que je finissais de dîner, j'allais me mettre au lit, puis j'avançais un petit peu dans mon roman, et mon mec me disait, mais t'en es où? Comment ça va? Et j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de d'étudier un truc vraiment genre, très important, et moi, d'être en train de résoudre un truc pour l'humanité. Tu vois, c'était vraiment un enjeu très grave dans notre couple. Et
c'est
là, bon,
toi qui as géré le problème à trois corps.
Et tout, j'étais là. Tu connais le fond difficile cosmologique qui est vraiment le seul truc que je dis à tous les gens que je rencontre maintenant. Et 100% des gens disent non.
Bah vas-y, c'est quoi le...
Non, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie.
On a eu le raid du class, elle est là, mignon.
Je vais pas me risquer. Yannick,
on sait leur métier.
Je te dis, Annick, elle m'a dit
tout à l'heure,
j'étais là.
On sait pas ce que c'est, mais on sait quand ça clignote, c'est pas bien.
Alors ça, on en a
pas
parlé.
C'est pas censé clignoter.
Mais ça, voilà un ressort dramatique absolument extraordinaire.
Mais oui, l'espace clignote, j'étais là.
Et à un moment donné, la dame, elle lui dit, si tu continues à étudier tes bails, l'univers va clignoter pour toi.
Et ça clignote et ça fait en morse les chiffres du compte à rebours.
Et au final, on n'en fait rien finalement.
Parce que tout ça, c'est une illusion des aliens. Donc, t'es là. Ok, c'était de la prestidigitation en fait.
Ouais,
vraiment, ils nous ont mis un hologramme sur la gueule, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'a priori, c'était quand même une excellente idée, quoi.
Oui, et c'est moi je suis pas fâchée que le dénouement de ces mystères-là, des chiffres, etc., ça soit bah c'est les aliens qui sont en train de nous la faire à l'envers, parce que bah c'est cohérent déjà avec tout ce que le livre nous raconte et que c'est original, je l'ai pas vu venir, et pour moi ça enlève rien à la saveur du mystère, mais je trouve que le mystère on s'y est pas assez appesanti, tu vois, pour des trucs aussi, comme on le disait, aussi incroyable et haletant que, ok, tu vois un compte à rebours, où est-ce qu'il mène ? Ok, quoi, l'univers clignote, où est-ce que ça mène ? Ça me dérange pas qu'à la fin, c'était de la poudre aux yeux des aliens, mais je trouve qu'on n'en parle plus pendant très longtemps avant de savoir, enfin, comme on dit, le compte à rebours et le fond diffus cosmologique qui clignote. On n'en parle plus pendant un bon moment avant de comprendre que, ah, du coup, c'était du bullshit. Donc, on ne sait plus finalement toujours, je trouve, quel fil on est en train de suivre,
et du coup, c'est un peu déséquilibré entre les parties, en effet, dans le jeu où t'es là. Bon, alors on a compris. Et ça fait vraiment 10 fois qu'on est dans ce jeu et qu'on a compris, a priori.
Et c'est
versus,
fun. Mais
il y a des trucs à faire, là, des trucs importants qui se passent, quoi.
Mais tu vois, au final, et c'est drôle parce qu'hier, avec donc, mon amie Marie Chanchon, Camille, elle me disait vraiment, moi, c'est les parties qui m'ont sorti du bouquin, c'était les parties du jeu. Et moi, je me suis dit, putain, j'ai qu'une hâte.
Double, hein.
Ouais, j'ai qu'une hâte dans la série, c'est de voir ce qu'ils ont fait de Trish Solaris, quoi.
Bah, je pense que l'ordinateur humain dans la série, ça va être des barres.
Oh, l'enfer !
Mais quoi ? Ils peuvent générer plein de gens !
Ah, quel enfer ! 30 millions de personnes, beaucoup de gaziers.
Certes. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques ? Alors, on a parlé du fait que les personnages sont pas forcément hyper creusés.
Ouais.
J'avais noté quid de la plume, quid du style.
Ah,
peu, mais on peut aussi. Et je sais que c'est plus un truc sur lequel toi t'as une... Bon, alors bien sûr on l'a lu traduit, donc ce n'est pas la plume directe de l'auteur, mais t'as peut-être plus une appétence toi pour tout ce qui est plume, figure de style et tout que moi.
Alors quand je lis un livre, c'est vrai que je cherche pas les figures de style, déjà parce que souvent quand je les cherche je les trouve pas, et ensuite non mais pour tout avouer, alors je vous raconte un peu ma vie. Donc il y a 2 semaines quand j'étais
story
en Espagne,
time.
Story time. Quand j'étais en Espagne, il y a toujours le CNES ou pas?
En fait, c'est pas le CNES, ils nous ont envoyé tous leurs viewers. Donc
ah oui,
les viewers du CNES, il y en a, ils sont encore là.
Merci.
Coucou.
Donc il y a 2 semaines quand j'étais en vacances en Espagne avec mon ami Alix Martino,
afin de faire le tour des observatoires du pays,
évidemment,
bien sûr, et de donner des conférences.
Tout à fait. Et chaque jour, je disais à Alix, putain, faut que je lise ce putain de livre.
J'ai peur de savoir ce qu'elle m'a choisi pour le mois prochain.
Et non, franchement, t'inquiète.
Okay.
Et vraiment, j'étais là, il faut que je lise ce livre. Et chaque jour, j'étais là, j'ai envie de lire tout, sauf ce livre.
Tellement j'ai envie de lire l'arrière des paquets de shampoing en espagnol plutôt que de lire
ça. Et Alix me dit, donc un soir, on boit trop de sangria, on est saoul, on rentre à la maison. Elle me dit, tu sais quoi ? On va commencer ce livre, toi et moi. Comment ? Je vais lire moi des passages, je vais te les mimer. Et tu vas devoir deviner ce qui est en train de se passer. Et donc,
c'est la meilleure chose. Et je suis très fâchée que tu ne m'aies pas envoyé des vidéos en mode devine quel chapitre elle fait.
Et donc, elle lisait des passages et elle essayait de me les mimer. Et j'étais là. Hein. Et en fait, bah, ça m'a un peu fait rentrer dans le truc. Alors, très légère. En fait,
elle mimait les gens qui se déshydrataient.
Non, parce qu'on était vraiment au début, tu vois. La
donc la révolution. Ah, bah oui! Bah, des trucs, des révolutionnaires, ils se font tirer dessus,
oui,
il y a une scène où il y a genre un drapeau blanc qui tombe sur une jeune adolescente morte pour la révolution, sur les couchants. Et
beaucoup de choses à faire, c'était vraiment une très bonne manière de rentrer dans le problème à trois
heures. Le chat est très chaud, hein, vraiment, je pense à embaucher Alix pour le prochain book club, faire une animation en intro, c'est elle qui ferait le résumé muet.
Tu ne peux pas juste prendre Alix, c'est un binôme, donc
seras là bien sûr pour le prochain book club.
Il faut qu'elle mime et que je devine et qu'on est en inverse, c'est important.
Ça fait chaud-froid un peu, genre,
évidemment. Non, c'était super. Moi, il fallait que je mime la Familia Grande. C'est vraiment pas la même chose. C'est ce qu'on était en train de lire, donc on s'est vite arrêté de le faire.
Oui, oui, oui. C'est un livre qui parle d'inceste. Hein,
oui, oui. Alors, on a mimé vraiment le début du roman.
Oui, c'est non, pas plus.
Et non, en vrai, c'était quand même une manière un petit peu saugrenue, certes, mais amusante de rentrer à l'intérieur de ce récit. Et puis, Alix me disait. Le style a pas l'air exceptionnel. Je lui dis, bah attends, je te dirai quand j'aurai un peu lu, parce que je trouve que. Alors, moi, d'habitude, je ne lis pas des livres dont les premières pages me donnent une mauvaise sensation en termes de stylistique. Et c'est vrai que quand je lis, me faire emmener par une plume, c'est prépondérant. Et j'ai vraiment, si au bout de 10 pages, je suis là, je trouve ça lourdingue, c'est ultra verbeux ou au contraire, c'est trop dépouillé, ce qui en général a tendance à me sortir d'une histoire. Voilà. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était déjà très bien traduit dans le sens où j'ai trouvé tout très clair, que la clarté du langage était quelque chose de vraiment primordial, j'ai l'impression, pour le traducteur, hein, c'est ça, qui s'appelle Gwenaël Gaffric, et qui donc est... Non, qui est un homme, je pense. Que j'ai trouvé donc très bien traduit parce que très clair à plein de moments. Et en fait, j'ai trouvé que le livre n'était pas... Ça avait certes pas une plume exceptionnelle, mais que néanmoins, on se laissait aller de A à Z sans être gêné par des problématiques de lourdeur ou, tu vois, de mains trop lourdes sur des adverbes, des adjectifs, j'en sais rien. J'ai trouvé le tout assez léger et du coup, j'ai été embarquée de A à Z sans me dire « Ah putain, c'est moche ». Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai été assez séduite par le ton assez naturaliste et dépouillé. Et,
Oui, à part voilà, quelques passages où il y a des discussions scientifico-techniques où peut-être que toi et moi, on a sauté quelques lignes en diagonale, on va dire. C'est pas, clairement, c'est pas chargé en fioritures. Ouais. C'est assez simple sans être simpliste.
Ouais.
Et comme on l'a dit, c'est un bouquin qui n'est pas extrêmement versé dans l'émotion, qui est assez froid, qui aborde des problématiques qui touchent à l'univers, à l'infiniment grand et tout. Donc, le style, je trouve, reflète aussi ça, quoi.
C'est clair.
C'est pas... mort en termes d'émotion, mais c'est quand même très léger en termes d'émotion. Et par contre, c'est plutôt qu'en termes de plume, c'est efficace.
C'est très efficace. Et en fait, franchement, moi j'ai été assez séduite, quoi. Alors, non, il y a un truc que je voulais dire quand même. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup quand je lis des auteurs et des autrices. C'est quand je me dis, voilà, chaque phrase est à sa place légitime. Je n'enlèverai rien. Je n'ajouterai rien non plus. Et j'ai l'impression que chaque phrase dépend de celle qui la précède et de celle qui la suit.
Yes.
Et ce que je déteste...
Tout est harmonieux.
Tout est harmonieux et tout est à sa place, est à ta qui. Et ce qui m'agace parfois dans les romans ou dans les essais, c'est quand je vois qu'il y a plein de phrases qui se répètent, qui sont absolument pas nécessaires à la compréhension du texte. Et donc, je me dis tout ça, j'aimerais enlever. Et là, je trouve que chaque phrase est à sa place. Je n'enlèverai rien. Qui suis-je pour dire enlever cette phrase.
Ajoutez-en une autre. Best-seller mondial.
S'il vous plaît, faites un peu plus dans les
trilogies.
Non, mais voilà. Non, mais je me dis juste pour mon goût.
Mais oui, on est là pour donner notre avis. Hein.
J'ai trouvé que chaque chose était à sa place et que rien n'était superflu.
Ouais.
Et ça, c'était vraiment très agréable.
Oui, il y a quand même, au final, un certain rapport à la nature dans toutes les parties qui se passent à Côte Rouge, qui est donc au sommet d'une montagne, dans la forêt. Ce personnage, alors certes assez tardif, de Mike Evans, qui est un militant antispéciste américain, héritier d'une famille très riche, qui a décidé de, qui va mettre sa fortune au service du camp des Adventistes, donc ceux qui pensent que la civilisation humaine est déjà foutue et autant que les aliens viennent. T'as une réflexion autour de la nature, autour de notre rapport à la terre, un peu au vivant, qui est quand même, qui apporte une forme de souffle et de contemplation qui empêche un côté peut-être sur technique et sur froid, quoi.
C'est vrai.
Donc ça, c'est pas mal.
D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de tout cet aspect nature, environnement, antispéciste, notamment de la fin du roman, qui est pourtant un des aspects prédominants dans le roman. Mais en effet, c'est vrai que tous ces moments qui sont un peu plus ponctués d'anecdotes, c'est-à-dire qu'au début, quand elle est à Côte-Rouge et que... c'est avant Côte-Rouge, où elle est dans la montagne, là...
Avec les bûcherons...
Voilà, c'est ça. Et qu'il y a ce journaliste qui vient et qui lui parle de la nature et des arbres et comment c'est terrible qu'on soit en train de tout tronçonner... sans égard pour la nature et les espèces. C'est vrai qu'il y a des réflexions, il y a des livres, on parle un petit peu de choses et ça s'envole un petit peu stylistiquement. C'est assez plein d'anecdotes, un truc qu'on perd après dans le roman, que j'ai trouvé assez joli. Et à la fin, pareil, il y a tout son truc à Evans, là, le mazout, le machin, il raconte plein de trucs. Et j'étais là, c'est bien, il y a un peu d'histoire dans l'histoire. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu les histoires qui nous intéressent et c'est tout. Donc,
Pour un livre qui traite de l'avenir de l'humanité et de la planète et qui pose des questions de est-ce qu'on mériterait en tant qu'espèce qu'il nous arrive une catastrophe en partie par rapport à comment on a traité les autres espèces. Il n'y a pas énormément de nature et d'écologie, c'est pas Ushuaïa, mais il y en a un petit peu. Et là la plume est plutôt jolie, quoi.
Ouais,
et
ça fait du bien.
Par rapport à une idée très cliché qu'on peut se faire d'une certaine littérature asiatique où on peut imaginer un truc hyper poète, tu vois, hyper le vent dans les cimes des nuages et tout, on est sur une écriture très pratico-pratique, je dirais, sans être non plus froide, qui fait mentir aussi les idées reçues, à la limite.
C'est
pour
vrai.
Les gens qui auraient peut-être un cliché un peu passéiste de la littérature et de la SF chinoise. Donc ça, c'est cool.
Carrément.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on devait aborder à part la série télé ? Donc et toi, ben, t'aurais appuyé sur le bouton, mais t'aurais... Non,
j'aurais pas appuyé
t'aurais
sur...
T'aurais pas laissé approcher du bouton, mais t'aurais pas... Si tu vois un ordinateur qui dit...
J'aurais
ici,
pas envoyé un...
Mais... Une autre planète, non, répondez pas, sinon c'est chaud.
Mais enfin !
Répondre yes, no, t'appuies pas sur yes. Je demande !
Yes, venez éradiquer mon existence paisible et mes vacances l'été. Non, mais bah, bien
et
sûr.
Et celle de mes chats.
Et celle de mes chats.
Ils ont même pas des chats, les trisolariens, pour l'instant. Donc,
c'est clair.
Franchement, qui est la meilleure civilisation ?
Non, mais on nous dit que c'est des états totalitaires qui n'arrêtent pas de se succéder sur Trisolaris. À quel moment j'ai envie
bah, c'est vrai qu'ils ont pas trop. Tu vois, déjà, on se plaint de la retraite à 64 ans, mais c'est chaud, Trisolaris, quoi,
c'est
globalement.
Clair. Du coup, non, je vraiment, j'aurais pas du tout appuyé sur ce bouton. Ça, c'est une certitude, ouais.
Très bien, je suis contente qu'on soit d'accord là-dessus. C'est... Non, personnellement, je n'aurais pas exterminé ma propre espèce. Voilà, peut-être qu'il y a des gens, c'est une question d'opinion, je ne juge pas, mais personnellement, je ne l'aurais pas fait. Du coup, tu es un peu hypée, tu l'as dit, pour pourquoi
mais
pas
ouais,
lire le 2
c'est fou, pourquoi pas lire le 2
Ok, moi aussi. Et il paraît que le 2, c'est vraiment le meilleur des trois. Donc,
bah, c'est formidable.
J'imagine que c'est là où il commence à se passer. Parce qu'au final, c'est un long prologue. C'est un
c'est
très
un
long
prologue.
Ce
mais
premier
quand
tome,
ils arrivent, je pense que ça va être fun.
Voilà, et j'espère qu'on aura un peu plus des personnages engagés dans l'action, quoi, ouais. Et avec des enjeux. Donc, je suis un peu curieuse du 2 aussi.
Mais tu vois, là, quand je suis sortie de Dune 1 l'année dernière, je me suis dit, c'est super beau, machin. Moi, j'ai kiffé de ouf le 1, mais j'ai vu plein de gens dire, oui, il se passe rien, on s'en fout, les personnages sont pas creusés.
C'est un long prologue, c'est un peu un des reproches qu'on lui a fait.
Exact,
aussi.
Mais en fait, ça n'était qu'un prologue pour ce deuxième opus de Dune. Où évidemment bah, la révolte explose, on est dans la guerre, les personnages sont un peu plus creusés, on a le temps de les voir vraiment un petit peu évoluer, puis on voit leurs contradictions. Et là, je me suis dit, waouh, putain, là j'en ai pris plein la tronche devant Dune 2, et je me dis, c'est sans doute un petit peu ça qui va se passer pour le deuxième tome.
Et il y a quand même une bonne partie des persos, maintenant on est quand même un peu impliqués.
On les connaît
émotionnellement, on les connaît comme. Peut-être pas autant que dans Dune, mais je suis, oui, j'ai envie que le commissaire, il lui arrive des trucs cool dans le tome 2, tu vois.
Bien sûr.
Quid de la série Netflix qui arrive du coup fin mars. Alors,
ouais.
Contexte, c'est une série Netflix qui est produite par
oui.
David la Benioff passion. Et David Weiss, que vous connaissez peut-être pour diverses œuvres, dont l'adaptation d'un autre best-seller de la littérature de genre en série télé, à savoir Game of Thrones. C'est les showrunners qui ont adapté Game of Thrones à la télé qui vont adapter Le problème à trois corps pour Netflix. Il y a déjà une bande-annonce, il y a un casting avec un petit peu plus de diversité. Il y a des personnages, il n'y a pas que des personnages chinois. Et a priori, de ce que m'a dit Birdseye, qui est pas mal dans le chat, etc., ça risque de mêler un petit peu aussi l'intrigue du 2 et du 3.
Ah
pas
bon,
forcément
d'accord.
Adapter que le 1.
Ah, je savais
peut-être
pas.
Qu'on va voilà, jouer d'un... Bah, peut-être pour éviter ce côté, on fait toute une saison qui est un prologue. Quoi. Et ça finit sur le moment où bon, bah, ça commence. On verra. C'est quoi ton hypomètre pour la série Netflix ?
J'aimerais vous vendre mon émerveil en termes de hype, mais j'ai regardé la bande-annonce il y a 3 jours, et honnêtement, ça me hype moyennement.
Pas trop, hein. Pas trop, ouais.
Ça m'a pas l'air... Enfin, je veux vraiment laisser sa chance au produit, et c'est très difficile de juger sur une bande-annonce, surtout quand on s'attaque à quelque chose d'aussi dense,
oui.
Qui est finalement ne serait-ce que ce premier tome, alors j'imagine les deux autres. Donc quand on est dans un truc aussi vaste, c'est vrai que c'est très compliqué de juger sur 2 minutes de bande-annonce. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait des efforts faits d'un point de vue... je trouve qu'il y a des choses qui ont l'air très élégantes, très jolies, et je te dis, moi, ce qui me... Alors bon, j'ai vu qu'ils avaient vachement teasé sur, en effet... le compte à rebours sur les yeux et tout, et je suis là, bon, j'ai hâte de voir comment ils ont écrit l'adaptation aussi.
Ouais.
Je sais pas ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont réécrit, c'est toujours
parce
très compliqué.
Ils ont peut-être réorganisé, parce qu'on c'est disait, il y a un côté un peu dans la structure un peu brouillon, ou
ouais.
Un peu lisse, où tout est au même niveau d'enjeu, bah, dans une série télé, il faut qu'il y ait des moments forts en fin d'épisode, il y a le ventre mou de mi-saison, il y a des choses comme, il y a un rythme différent. Quoi.
Et puis, quelle va être la backstory des personnages ? Est-ce que c'est intégré à la série ? Est-ce qu'on va découvrir un petit peu sur les origines donc, de chacun des personnages, notamment de ce commissaire un peu bourru qui écrase ses clopes partout. Moi, j'ai envie de savoir qui est-il, pourquoi. Apparemment, il a torturé des gens.
Quel est son resto de nouilles préféré ? Bien sûr.
Exactement.
Mais oui.
Mais du coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils ont fait des personnages. J'ai hâte de voir si on va réussir à s'y attacher un peu davantage qu'on ne s'est attaché aux personnages du roman. Mais en tout cas, pour l'instant, la bande-annonce ne m'a pas subjuguée. J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Néanmoins, je vais quand même regarder avec attention. Et j'ai vraiment hâte. Tu sais quand ça sort ?
21 mars.
Ah oui, c'est vraiment après-demain.
Pas de bêtises. Ou 31 mars, je sais plus, mais je crois
que c'est.
C'est
pour ça que tu as choisi le bouquin ?
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le bouquin, parce que je savais que j'allais regarder la série, parce que c'est un monument de la SF et qu'on a deux. Alors, Pendant longtemps, je disais, on n'a pas beaucoup de bonnes séries de SF. C'était vrai. Maintenant, on a plus de bonnes séries de SF. Et mon problème, c'est qu'il y en a beaucoup, j'arrive pas à rentrer dedans. The Expanse, j'arrive pas. Trop For chiant. All Mankind, j'arrive pas.
Trop chiant.
Bon, j'aime bien Black Mirror, mais on en a 3 épisodes tous les 8 ans. Et depuis que c'est sur Netflix, j'aime ouais, moins bien vrai. Tout ça. Donc, je suis
curieuse.
C'est
pas la hard SF. Black Mirror, si.
Non, Black Mirror, non. Ouais, non voilà. Bien sûr que non. Donc oui, pour info, on parle de hard SF depuis le début. La distinction, normalement, entre hard science fiction et science fiction, c'est que la hard SF est censée se baser sur de la science existante, ou en tout cas adaptée à ce qu'on connaît actuellement, de l'état du monde et des mathématiques, et de la physique quantique et des systèmes à 3 corps et tout ça. Donc je savais que j'allais la regarder. Je préfère toujours lire le livre avant de voir l'adaptation, parce que comme ça, je me fais les images dans ma tête, sans être polluée par un truc que j'ai déjà vu. Et après, je peux râler parce que c'était mieux dans ma tête. Et surtout, c'était l'occasion de me motiver à le lire. C'était un livre sur lequel j'avais l'œil depuis longtemps, parce que voilà, il a eu beaucoup de succès et je m'y étais jamais mise. Et je me suis dit, le book club plus la série qui arrive, c'est l'occasion.
Non, mais écoute, tu sais, au début, je t'en ai beaucoup voulu. J'ai été très amère pendant plusieurs semaines où j'ai vu ce livre sur ma table de chevet.
On en a voulu avant de l'avoir commencé,
tout
ouais.
Tout à fait. Je t'en ai voulu pour la couverture. J'étais là, vraiment, elle veut que je meure.
C'est pas moi qui ai choisi cette couverture qui est bon.
Elle est jolie en vrai.
Ah oui, c'est juste c'est un humain devant cette immense parabole du coup.
Non, mais en vrai, elle est simple, mais elle est froide quoi, ouais. Comme le bouquin. Et en vrai, tu vois, je trouve que quelque chose d'un peu fun, ça aurait été de voir un peu l'intérieur du jeu vidéo. Mais bon, je sais pas comment il aurait figuré. Bon, bref. Mais ouais, au début, je t'en ai beaucoup voulu. Et franchement, je trouve que c'était une très bonne entrée en matière, parce que je suis là. Que peut-on lire de plus compliqué?
Et beaucoup de choses en vrai. Speaking of, du coup, alors en attendant, pour la série Netflix, je ferai un débrief sur cette chaîne. Normalement, il m'a donné son accord de principe avec Fibre Tigre, qui lui comprend les mathématiques, donc je pense que ça sera bien d'avoir les deux personnes pour en parler. Et du coup, on va se laisser 1 semaine, 10 jours après la sortie de la saison. J'imagine que la saison sort tout d'un coup sur Netflix pour en parler, du coup, fin mars, début avril, sur cette chaîne.
Mais toi, t'as pas dit si t'étais un peu hypé ou moyen?
Je vais la regarder. Je suis d'accord avec un message de Birdseye dans le chat qui dit on tape beaucoup sur donc Benioff et Weiss, le duo de showrunner pour les dernières saisons de Game of Thrones, mais en vrai, ils ont quand même fait des trucs de fou bien dans sûr. Les saisons d'avant. Et ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils étaient très forts pour adapter Game of Thrones, pour adapter un bouquin qui est difficilement adaptable parce qu'il y a 1 milliard de personnages dans un monde fantasy et tout, en une série télé qui a conquis tout le monde, même les gens qui n'aimaient pas la fantasy. Et tant qu'ils avaient des bouquins adaptés, ils s'en sortaient très bien. C'est quand ils en avaient plus, parce que George R. R. Martin les a pas finis, que ça a commencé à partir en autre boudin. Là, ils ont les bouquins adaptés, donc a priori, à part changer peut-être un peu de la structure et tout, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter. Après, voilà, il faut que la série ajoute de la profondeur au personnage, comme tu l'as dit. Et j'avoue que là-dessus, bon, ils ne m'ont pas convaincu dans l'écriture de personnages quand ils ont commencé à devoir extrapoler sur des personnages existants dans Game of Thrones sans avoir de bouquins sur lesquels s'appuyer. J'ai un peu peur aussi de... Ça fait longtemps que je n'ai pas aimé une série Netflix, honnêtement. Je trouve qu'elles ont toutes une gueule un peu glossy, un peu brillante,
ouais,
qui n'est pas très belle. Et qui se retrouve un peu dans cette bande-annonce. Et je pense que ça manque un peu peut-être d'une vision. J'aurais peut-être aimé un truc artistiquement plus ambitieux dans la vision, quitte à être plus compliqué à aborder. Quelqu'un dans le chat parlait de Devs, une série de SF de Alex Garland, qui a fait Ex Machina, qui a fait...
Ouais, j'adore Alex Garland.
C'était Man quoi son film Netflix avec Natalie Portman?
Ah, j'ai adoré Annihilation. Annihilation, ouais.
Donc voilà, c'est de la SF qui est pas aussi mainstream forcément que Game of Thrones, la série, mais qui a une vision d'auteur, qui propose un truc. Et je pense que dans le problème à 3 corps, il y a même voilà, visuellement des choses que j'ai du mal à me représenter. Il y a ces bonhommes déshydratés dans le jeu vidéo, il y a les protons qui tombent du ciel, il y a le fond diffus cosmologique qui clignote. Et je préférais voir un auteur qui a une patte mettre ça en scène, plutôt ouais, que là, j'ai l'impression qu'ils vont plus essayer de faire du Nolan, tu vois, un peu du Inception dans la bande-annonce. Mais bon, on verra, je vais regarder, c'est sûr. Sauf si c'est vraiment nul, je vais regarder toute la saison, quand même, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont en faire, et en parler sur cette chaîne. Voilà.
Trop hâte.
Quand même. Et fin mars, entre 2 épisodes de Le problème à 3 corps sur Netflix, on se retrouvera pour un nouvel épisode du Book Club avec le livre
tout
que tu as toi-même choisi.
Alors juste, je me suis demandé, c'est un livre qu'il faut que je lise en même temps que toi ou que j'ai potentiellement déjà lu?
Tu peux l'avoir déjà lu, il n'y a pas de problème.
Super.
Juste que ça soit un peu frais dans ta tête pour en parler.
Bah, je viens de lire un livre.
Très bien.
Et j'ai très envie que tu le lises.
Kalindi, qu'est-ce qu'on lit en mars?
Je pense que vous allez être séduit. Ça s'appelle Où vivaient les gens heureux.
Okay.
Une jeune femme qui s'appelle... pas si jeune d'ailleurs, qui s'appelle Joyce Maynard,
okay.
Qui est une autrice américaine. Il faut que je le pitche.
T'es pas oblig... Non, le pitch, c'est quoi?
D'accord,
le pitch
je pitche pas, ok.
Si tu veux donner genre un mot, une idée.
Non, mais c'est vraiment simple. Hein. Une idée, charge mentale. Voilà, c'est fun, non ?
Très bien, charge mentale. Ok, mais c'est bien Mars, c'est là, tu sais, le mois des gonzesses et tout, machin. Très bien. Donc, où vivaient les gens heureux ?
Alors juste, donc moi je viens de le terminer, juste avant d'avoir entamé Le problème à trois corps. C'est un livre qui a un petit pavax hein, aussi, qui fait bien 5 ou 600 pages. Que j'ai lu quasiment d'une traite et qui est très simple, mais d'une joliesse infinie.
Très bien.
Et dont j'espère qu'elle saura vous séduire.
Mais en vrai, je suis très contente aussi de faire ce format parce que je sais que tu vas me recommander des livres que j'aurais jamais lus, vers lesquels je serais jamais allée et tout, et que t'as bon goût.
Ça ah bah j'espère. Alors merci. C'est pas ce que disent les gens qui me voient habillée ce soir, mais
attends, t'es au top. Il y a un sous-pull léopard.
Sous-pull léopard, t-shirt.
Nashville, Tennessee, authentique. Moi j'adore, j'aime tout ce qui se passe.
Non mais je lis jamais des histoires un peu tranches de vie, un peu drame intime comme
tu disais.
Bah
moi c'est tout ce que j'aime.
Donc ça va aussi m'élargir mes horizons et me confronter à des lectures dont j'ai pas l'habitude.
J'ai hâte que tu lises un livre dans lequel il ne se passe rien sur 600 pages.
Cal, est-ce que t'as des petits rendez-vous à donner aux gens, des choses vers lesquelles les renvoyer?
Bah ouais. Alors donc 4 quarts d'heure, le podcast que je co-anime avec Louise Petrouchka, Camille Laurent et Alix Martineau sort tous les mardis à 6h04 du matin à peu près. Je dis 6h04, c'est le moment où moi je mets en ligne, pas sûr que les autres fassent de même.
C'est 6h07.
Tous les mardis, 4 quarts d'heure, tous les vendredis, le seul avis qui compte, mon avis sur le cinéma. J'ai récemment parlé de True Detective saison 4.
Oh
vraiment, si tu veux m'inviter pour en parler, que tu l'as déjà vu, j'en
sais
rien.
Ouais, j'ai tout fini là.
T'as fini ouais. Ok, moi j'ai pas fini, il me reste un épisode, je n'en peux plus, j'ai adoré.
Ok, bref. T'as trompé pas ça. Ok.
Voilà. Donc, je donne mon avis sur le cinéma, les séries et l'agence saison 4 tous les vendredis, tous les vendredis en podcast.
Yeah.
Aussi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Le cas, évidemment, tous les lundis de 19h à 21h avec une pause tous les à la fin de chaque, bon bref, vous en foutez. Donc
le cas revient le 11 mars. OK, c'est ça qui compte.
Tous les lundis après de 19h à 21h, ça coûte pas cher, c'est 4 sessions de 2 heures chacune en ligne, vous êtes pas obligé de bouger votre cul de chez vous, c'est super.
Non, bien sûr que
donc,
non.
Donc ça c'est mon rendez-vous et ensuite évidemment mon roman qui sort le 2 mai aux éditions La Tesse. Suivez-moi sur mon compte Instagram @calramfel parce qu'il va y avoir des choses à gagner, des goodies pour le bouquin, des bouquins à gagner, potentiellement des places pour venir à la soirée de lancement, etc. Donc
j'y serai, la mif, bien
c'est
sûr.
C'est vraiment moi qui fais une lecture et c'est tout.
Ça va être trop bien, on va pleurer et boire du champagne.
C'est vraiment tout, voilà.
Ça va être trop bien.
Écoutez, c'est à peu près tout.
C'est
mais
déjà pas mal.
Merci beaucoup Mimi de m'avoir invitée.
Mais merci Cal d'avoir
c'était
été
un plaisir.
Là.
J'espère que j'ai été à la hauteur de ton esprit scientifique et hautement logique et hautement intelligent, car toi je te mets un 18 sur 10 en intelligence.
Oh là là, ça renchérit. Ça renchérit, c'est pour ça que c'est ma préférée évidemment. Merci beaucoup. Cal,
des bisous.
Des bisous.
Bye bye.
Tchuss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.